Bon midi, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 pour l'émission On en jase, ton émission d'actualité du midi. On parle pour toi des gros dossiers, des grosses nouvelles, on analyse la politique, on fait un peu de sport à travers ça parce que Cole Caulfield a quand même marqué un tour du chapeau samedi. Roger Brulotte nous a quitté vendredi. Monsieur Baseball au Québec. Bonsoir, elle est partie. On a entendu à maintes reprises dans nos foyers. On va d'ailleurs avoir son grand comparse, Jacques Doucet, tout à l'heure aux alentours de 13h05 en entrevue pour se rappeler les bons moments de Roger Brulotte. On aura aussi le chum Alex Laramé en fin d'émission pour parler du Canadien de Montréal, de Cole Caulfield, et aussi de Jackson Smith Njigba, qui vient de signer le plus gros contrat de l'histoire pour un receveur de passes dans la NFL. 4 ans, 168 millions. Vous le savez, cette émission-là, on l'a fait moi, Pascal CV. Normalement, c'est Antonin Iaccarini dans le caucus. Antonin est absente aujourd'hui, ça va être Victor Henriquez. Mais on a changé le plan de match un peu. Victor va être là vers 12h40. Parce que Pascal, la grosse nouvelle, c'est l'accident d'avion à LaGuardia, aéroport dans le coin de New York. Un pilote et un copilote, malheureusement, qui sont décédés d'Air Canada. C'est la grosse nouvelle, c'est ce qu'on va parler. Tu as parlé avec un spécialiste de l'aviation. Mais avant, ça brasse aussi pas à peu près en politique présentement provinciale.
Ben oui, gros lundi. Maïté Blanchette-Vézina, bon, si je vous dis son nom, clairement, qui vous voyez apparaître dans votre tête à ses côtés, c'est Éric Duhaime. Elle se joindrait officiellement au Parti conservateur du Québec. Éric Duhaime, on l'a eu en masse, puis pas à peu près dans nos entrevues ici à Boulevard 102.1. Et à chaque fois, il disait, on se courtise, comme un couple, on se courtise.
T'es même venu les deux ici en ondes, on en jase. Ouais. Bon, pas de suite, on a certains...
Faut présenter la famille.
Exactement.
Pour voir sa fille. C'était vraiment comme l'image du couple.
Il y a certains principes sur lesquels on s'entend. Ouais. C'est se fréquenter, s'envoyer des petits messages une fois de temps en temps. Mais là, ouais.
Ce serait officiel. Du moins, on aurait une publication officielle de ce couple-là politique demain. Donc, après des mois de spéculation qui concernaient la députée de Rimouski, on n'a pas d'infos à savoir ce qu'elle va rester à Rimouski, qu'est-ce qui va se passer avec elle. Mais ce serait fait. Ce serait frenché, tiens, Jeff Fortin.
Et voilà. C'est ce qu'il aurait fait.
Politiquement parlant.
On passe au premier baiser.
Serge Bonin aussi, on a des nouvelles de Serge Bonin. Il quitte Repensons Lévis pour le PQ. Donc, vous le savez, c'était la principale opposition lévisienne. Il s'est présenté aussi pour être maire de Lévis. Ça n'avait pas fonctionné. Il y avait eu une défaite à l'élection municipale. Mais là, officiellement, il quitte la tête de cette opposition lévisienne. Il veut devenir candidat du Parti québécois dans Chute de la Chaudière. On aura en masse le temps d'analyser tout ça parce que c'est souvent mal perçu. Hein. On a donné un poste d'opposition. Ça veut dire que c'était la deuxième plus haute force de cette course-là municipale. Et il dit merci, mais non merci, je m'en vais au PQ. Travaux à la tête des ponts dès aujourd'hui, je dois le dire. La route numéro 23, c'est l'avenue des Hôtels, là, de la route 175 au boulevard Laurier en direction nord. Ça, c'est fermé jusqu'à fin juillet. Attelez-vous. Ministère des Transports qui explique que l'entrave est requise pour réaménager la chaussée, les bretelles de l'avenue des Hôtels. C'est dans le cadre de la construction du corridor pour autobus. Alors ça, on va vous le mentionner, pas juste une fois aujourd'hui et encore dans les prochaines semaines. Aujourd'hui aussi que s'amorcent les audiences sur la loi de la laïcité, la loi 21 à la Cour suprême du Canada. Concrètement, là, c'est 9 juges qui devront précisément se pencher sur la question de l'utilisation de la clause dérogatoire par les provinces canadiennes. Et Donald Trump a dit qu'il avait le plaisir de nous annoncer que les États-Unis d'Amérique et l'Iran ont eu dans les derniers jours des discussions très fructueuses et même constructives en vue d'un règlement complet et même définitive des hostilités au Moyen-Orient. À suivre, c'était votre non-président Donald Trump qui parlait.
418-971-101 pour réagir par texto. On a quelqu'un qui écrit par respect pour ses électeurs. Blanchette Vézina devrait rester indépendante jusqu'à l'élection. C'est un bon point de vue. On en parle tout à l'heure dans le caucus vers 12h40 avec Victor Henriquez. Au 418-971-101, je veux que vous envahissez les textos de bonne fête, Pascal, parce que c'était 32 ans.
Une vieille affaire.
Mais
je suis en train de rancer.
Une vieille, c'est l'enfer.
Non, mais crime. Je vous crois maintenant quand vous me disiez là, qu'à partir de 30, ça va vite, puis pas à peu près.
Ben oui.
Je les ai pas vus les deux dernières années.
Non, ça déboule.
J'essaie de les remplir le plus possible à suivre pour cette année.
Moi, je suis rendu à 46. Je me souviens encore de mon party de 30. On dirait que c'était hier.
Arrête. Ça a-tu vraiment été aussi vite et violent que je trouve en ce moment?
Ouais, ça va vite, mais tu sais, la vie est belle.
Comment on fait pour ralentir le temps, Jeff? On fait des enfants?
Non, ça ralentit pas pire, vraiment le temps. Je pense à ma fin de semaine où j'ai coaché deux fois au hockey. J'ai fait du taxi en masse. Ça n'a pas ralenti le temps, vraiment.
Encore moins de temps, finalement. pour toi aussi.
Ouais, c'est ça, mais on les aime tellement, ces belles, ben oui, ces belles petites bêtes-là.
Merci pour les souhaits.
Yes, fait 418-971-1021, vous le savez, BLVD.fm, c'est notre web radio, c'est les meilleurs moments. BLVD 1021 disponible sur App Store et Google Play Store, c'est l'application twitch.tv/BLVD/FM. Plusieurs personnes avaient souhaité bonne fête à Pascal également. Et abonnez-vous à notre page YouTube. Des excellents moments s'y retrouvent, dont le podcast des entrepreneurs avec Joannie Fortin. Je vous parle d'un invité un peu plus tard dans l'émission. Mais là, Pascal, sautons dans le vif du sujet. Tragédie aérienne à l'aéroport de LaGuardia, dans la région de New York, où un pilote et un copilote d'Air Canada ont perdu la vie.
72 passagers, 4 membres de l'équipage qui étaient à l'intérieur de ce vol-là. Je pense que tout le monde est un peu sous le choc. Hein? Il y avait des rumeurs, des informations comme quoi il y avait eu collision impliquant un avion qui était parti de Montréal, un avion d'Air Canada, jusqu'à LaGuardia, à New York. Puis, tu sais, on se dit, ah, il me semble que Montréal, New York, si on passe à un endroit sécuritaire pour voler,
ben
souvent, c'est ce genre de transport-là qu'on peut prendre entre le Canada et les États-Unis. Et il y a eu collision entre l'avion et un camion de pompiers qui était sur le tarmac. Donc, il est arrivé et qui a fait irruption face à l'avion. Je parlais ce matin avec Charles-Éric Lamarche, qui est expert en aviation, de cette collision-là qui a fait 2 morts, beaucoup de blessés. On est pas mal tous à l'hôpital du côté des passagers. C'est un peu inconcevable. C'est pas supposé être ultra sécuritaire et contrôler le tarmac d'un aéroport. C'est la première question qu'on peut se poser. Puis j'ai appris que la situation était très différente entre les États-Unis et le Canada.
Ben, elle est maximale, mais c'est toujours la coordination entre le contrôleur sol et le contrôleur air à ce moment-là. L'enquête démarre. On est au premier balbutiement. Bon, grâce à certains sites Internet, on est capable d'avoir accès aux bandes audio, mais c'est pas des bandes audio qui ont été relâchées par le Bureau de la sécurité des transports encore américain, par le NTSB. Donc, c'est vraiment ce qu'on retrouve sur les bandes publiques présentement qu'on a accès. Et une particularité qu'on doit dire, par exemple, et qui est bien différente entre le Canada et les États-Unis, c'est dans la procédure. Et aux États-Unis, afin de favoriser la fluidité du trafic, on donne une autorisation d'atterrir beaucoup, beaucoup plus tôt et on présume que la piste va être libérée au moment où on donne l'autorisation d'atterrir. Alors, au Canada, le contrôleur doit absolument avoir la confirmation qu'il n'y a aucun véhicule, aucun autre appareil qui peut faire une incursion de piste. Dans ce moment-ci, on entend l'appareil de Jazz, est le deuxième sur l'atterrissage et se fait donner l'autorisation, donc le fameux clear to land. Alors, on présume que l'avion en avant va être sorti de piste. On présume qu'il n'y aura pas de véhicule qui va entrer sur la piste. Donc, les procédures sont un peu différentes, Canada et États-Unis. Et ça fait longtemps qu'on en parle que c'est problématique à certains moments.
Fait que si je comprends bien, c'est qu'aux États-Unis, on dit atterrir, puis après ça, on check pour être sûr que tout est correct, contrairement au Canada, où on va faire les vérifications avant. Fait qu'il y a un...
C'est capoté.
C'est plus dangereux aux États-Unis, mais en tout cas, à mon œil à moi.
C'est un peu ce que j'ai aussi comme compréhension de ce que Charles-Éric me disait ce matin. Présumé, ça vient quand ramasser un peu les entrailles, tu sais,
présumé.
Un tarmac d'aéroport, mais bon. Il y avait des facteurs humains dans cet accident-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent être? Parce que là, on entend toujours l'enquête, on s'entend, mais il y en a toujours. Quels sont-ils?
Oui, puis c'est on ne comprendra pas aujourd'hui non plus. Ça va prendre l'enquête. Il y a plein d'éléments à analyser dans l'enquête. On va aller analyser, par exemple, les facteurs humains. Donc, on va les regarder pour toutes les personnes qui étaient impliquées dans l'accident. Donc, que ce soit les pompiers, que ce soit les pilotes, les contrôleurs, on va aller voir un peu le niveau d'entraînement, le niveau de fatigue, la performance au travail de ces gens-là aussi. C'était quoi aussi leur dernier 24-48 heures avant l'accident? On a dû, admettons, un des participants qui était fatigué, qui était un peu malade, qui pouvait un peu ralentir son temps de réaction.
Oui, notamment le chauffeur du camion de pompiers. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a eu un moment, malheureusement, lunatique ou un moment d'errance, justement, mentale? Ça fait en sorte que c'est pas retrouvé au bon endroit au bon moment.
Bien, écoute, ça pourrait peut-être répondre à certaines questions, mais effectivement, il y a des facteurs environnementaux qui jouent sur les facteurs humains. On écoute.
Ensuite, on va aller voir, par exemple, dans le poste du camion de pompiers, qu'est-ce qu'on voyait exactement? Là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait de la pluie. la pluie, la nuit, avec les lumières, c'est pas toujours évident de bien voir ce qui arrive. Les lumières sont pas toujours claires. Il y a de la surbrillance avec les gouttelettes d'eau qu'on retrouve dans le pare-brise. Donc, c'est pas évident de bien voir. Oui, on a les communications audio qu'on enregistre, mais qu'est-ce qu'on se disait dans le cockpit de l'avion aussi? Qu'est-ce qui se passe mal à ce moment-là? Et qu'est-ce qui se disait dans le camion de pompiers? On n'oublie pas, ces gens-là sont en route pour porter assistance à un autre appareil qui avait une odeur de brûlé dans son cockpit. Donc, à ce moment-là, il y a de la coordination. On se parle aussi avec l'équipe de pompiers qui est à bord. Qu'est-ce qu'on a manqué? La visibilité aussi, je parlais de la pluie, mais tu sais, la configuration du camion, qu'est-ce qu'on voyait exactement sur la piste?
Il y a toujours les autres facteurs, hein, ceux de la tour de contrôle qui essaient d'être un peu le maître de cérémonie de ces atterrissages-là, de ces camions qui vont passer sur le tarmac. Mais tout ce qui est imprévisible, on doit le compter.
On va parler au contrôleur aérien. C'était quoi ton plan de match? Pourquoi tu faisais passer ce véhicule-là? Qu'est-ce qui te permettait de croire que tu avais le temps de laisser passer le véhicule? Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on va analyser. Et tu sais, on a fait souvent des entrevues ensemble, Pascal, mais le fameux fromage suisse. Hein? Donc, normalement, dans l'aviation, on a plusieurs tranches de fromage suisse qui sont des barrières de sécurité, mais ce n'est pas des barrières de sécurité qui sont parfaites. Il y a des trous. Et aujourd'hui, encore là, nos coûts se sont alignés dans notre fromage suisse pour amener à l'accident. Donc, là, c'est de voir comment on peut réduire nos trous de fromage, comment, pourquoi nos trous de fromage se sont alignés dans cet accident-là là, qu'on a vécu hier.
Oui, je comprends bien. Puis en plus, hein, au niveau de l'environnement, l'extrait au préalable, on sait que la météo n'était pas bonne à New York parce qu'on est en train justement de retarder certains départs de cet aéroport-là. Et là, bien vraiment, qu'est-ce qui n'a pas marché puis comment qu'on va faire par la suite pour émettre des procédures qui vont faire en sorte que, je vais reprendre son image, le trou du fromage suisse se rapetisse vraiment. Là.
Ben oui, puis il y a tellement de spéculations en ce moment là, qui disent « Ah, il était-tu fatigué, pénurie de main-d'œuvre, est-ce qu'on fait travailler trop certains employés maintenant? » Mais tu sais, il faut savoir qu'il y a une chose qui est claire, puis ça, Charles-Éric Lamarche me l'a confirmé, il y a une augmentation de ce genre d'événements-là et d'éruptions sur les pistes.
Bien, au Canada, on est extrêmement proactif là-dessus. J'étais justement avec une rencontre, un congrès la semaine passée, et on avait des gens du Bureau de la sécurité des transports du Canada qui étaient là et qui parlaient, qui nous rappelaient encore cette année que les incursions de pistes, donc des événements comme se sont passés hier, et qui sont pour la plupart du temps jamais dramatiques, on les prend très, très, très au sérieux et sont toujours sur la liste de surveillance du Bureau de la sécurité des transports. Ils sont en augmentation, ces événements-là. On a de plus en plus de véhicules, on a de plus en plus de trafic. Nos utilisateurs aussi du réseau changent. Donc, comment on peut s'adapter pour limiter ce type de problématique-là? On en a eu un récemment au Brésil, 2024. Souvenez-vous, un avion sur sa course au décollage qui s'est fait passer devant par un camion de pompier, a frappé le camion de pompier. Donc, on a encore des accidents comme ça qui surviennent. On veut le réduire au maximum. L'année 2025, on a rapporté au Canada près de 639 incursions de pistes. C'était pas toutes des incursions de pistes avec des risques extrêmes. On avait seulement une que vraiment on avait un risque de collision. Le restant, c'était des risques minimes ou presque pas risqués. Donc, parce que oui, on a eu une incursion de piste, mais on n'avait pas d'avion en approche ou quoi que ce soit. Donc, c'est au Canada, on le surveille très, très, très étroitement. Le Bureau de la sécurité du transport travaille avec Transport Canada pour essayer de diminuer le nombre d'événements et diminuer le risque lié à ces événements.
Ça m'étonne le laxisme des Américains en termes de sécurité dans les aéroports.
T'sais, c'est sûr qu'on peut le voir comme ça. Moi aussi, c'est ma première interrogation. Est-ce que c'est du laxisme ou c'est une autre façon de faire, finalement?
En effet, c'est vrai, c'est un bon point.
Plus de risques. En même temps, à LaGuardia, il y a plus de vols. Ça roule pas à peu près là, à New York. T'sais, ça fait-tu partie du pourquoi c'est différent d'ici? Il va falloir vraiment lire les conclusions de l'enquête parce que, tout comme toi, Jeff, la première chose que je me dis, c'est si nous, on fonctionne comme ça, est-ce que leur façon de faire, finalement, est trop relaxe? Elle n'est pas prise assez au sérieux?
Parce qu'en connaissant pas ça, j'ai tendance à dire au Canada, on est plus sécuritaire qu'aux États-Unis.
Même constat. Puis là, on se dit, là, c'est un constat qui est un petit peu plus citadin. Là. C'est notre constat de citoyen.
De patriote.
De quidam. Là. Mais il a analysé les bandes audio, lui, puis voici ce qui en ressort.
C'est jamais évident d'écouter ces bandes-là. Il faut essayer de se détacher le plus possible lorsqu'on écoute ces bandes-là. Mais à l'oreille, on entend le sentiment de panique du contrôleur qui voit ce qui s'en vient et qui essaie de faire stopper le véhicule. Mais encore là, c'est pas évident de comprendre en premier à quel véhicule il s'adresse et est-ce que le camion de pompier aurait pu l'entendre à temps. C'est un autre, c'est spéculation présentement, mais c'est des, une écoute qui est dramatique et ça sera analysé, là, par les enquêteurs du NTSB. Probablement, comme c'est un avion opéré par une compagnie canadienne et un avion de construction canadienne, le CRJ-900, on va avoir les gens de la bureau de la Sécurité des Transports du Canada aussi qui vont être impliqués dans cette enquête-là. Donc, nos enquêteurs du Canada aussi vont être mis à contribution là, pour analyser ces bandes-là. Mais là, on a fait une première écoute encore là. Ce n'est pas des bandes qui sont nettoyées, qui sont isolées. C'est très, très dur de se prononcer présentement, puis les enquêteurs vont être là pour nous éclairer, mais c'est jamais quelque chose qui est évident à écouter.
Oui, sur la bande audio là, qu'on a fait jouer justement plusieurs reprises à Boulevard depuis ce matin, on entend clairement le stop, 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 mm-hmm. puis l'appel vers le camion de pompier. Mais là, maintenant, qu'est-ce qui s'est produit entre les deux?
Puis on pouvait-tu l'éviter, tu sais, en tant que... qui dame, on se dit, on peut-tu remonter ouais. dans les airs? On peut-tu aller sur le côté?
C'est ça.
On peut-tu éviter le camion?
Non, c'est extrêmement difficile de réagir à ce moment-là. C'est un avion qui est en train de terminer sa course à l'atterrissage. On est en freinage. C'est extrêmement difficile. On est en ligne droite. C'est un avion qui est très pesant, malgré que ce soit un jet régional. C'est très pesant. Vous avez un véhicule qui vous coupe la route. On a de la misère à réagir en voiture. Imaginez lorsque vous avez un avion là, qui pèse plusieurs dizaines de tonnes. C'est vraiment pas évident. Donc, puis, tu sais, en aviation, la clé pour se sauver du trouble, c'est toujours de la vitesse et l'altitude. Alors, à l'atterrissage ou au décollage, c'est toujours des moments où on est extrêmement vulnérable.
Oui, 160 km/h que l'avion allait sur la piste d'atterrissage au moment de la collision. Donc, imaginez-vous rouler à 160 km/h avec votre voiture, puis devoir freiner brusquement, vous rentrez en contact. Là.
C'est ce qui a poté quand les pilotes ont vu leur mort. D'après moi, ils devaient le savoir. Ça, c'est vraiment une opinion personnelle qui me donne des frissons dans le dos. Puis, j'ai pas envie d'en avoir dans les prochains voyages. Probablement que vous non plus. Fait que, est-ce que c'est encore sécuritaire, malgré tout, prendre l'avion?
On n'oublie pas, le transport aérien est toujours le transport le plus sécuritaire au monde. Oui, il y a des accidents. Oui, ça arrive. Mais l'important, c'est qu'on analyse ces accidents-là. On apprend de ces accidents-là. On prend les mesures correctives nécessaires pour que ne plus que ça se reproduise le moins possible. Mais ayez confiance en vos avions. Ayez confiance en vos équipages. Ayez confiance en vos transporteurs. On a une belle industrie qui est très sécuritaire.
Merci à Charles Éric Lamarche, expert en aviation.
C'est juste qu'une tragédie aérienne, ça frappe l'imaginaire.
Oui.
Tu sais, depuis ce matin, on le voit, là, puis là, je regarde la télévision, là, on voit le devant de l'avion complètement arraché. Ça frappe complètement l'imaginaire. C'est irréel quand ça arrive. Fait que c'est pour ça qu'on a l'impression que des fois, le transport n'est pas sécuritaire, mais au contraire, il y a tellement de vols dans une journée.
Tellement, là. Puis moi, ce matin, je l'ai vu dans un certain Adam Bolestridge. Là.
Ouais.
C'était, écoute, je me suis levé à 6, fait que c'était 4 heures avant, 6 heures quasiment, où je voyais juste dernière heure un avion d'Air Canada impliqué dans un grave accident à New York. Quelqu'un a plus d'informations, est-ce une rumeur? Je me disais, ça doit être encore de l'intelligence artificielle.
Ouais, mais non, c'est vrai. C'est réel.
C'est tellement étrange de voir ça.
Ouais. Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir avec l'enquête, parce qu'on se demandait ce matin, puis Yannick a son permis d'aviation, donc un peu plus connaisseur, si le pilote s'était pas justement dit « OK, je bouge pas pantoute mon avion, je rentre dedans puis je sauve les passagers. »
Oui, au lieu de ma propre vie.
Au lieu de ma propre vie, exactement.
Nos pensées vont aller.
On en jase. Jusqu'à 14h, on en jase.
T'as entièrement raison, nos pensées vont avec eux. Merci Pascal CV, good job. C'était tellement intéressant comme dossier. Ça nous en fait connaître davantage sur le secteur de l'aviation que on connaît pas nécessairement. On passe à un autre connaisseur, un grand connaisseur de politique américaine à qui on a le bonheur de parler une fois par semaine à l'émission On en jase. J'ai mentionné Luc Laliberté. Luc, comment vas-tu?
Je vais particulièrement bien. Je peux vous assurer tous les deux que c'est un plaisir partagé que de vous retrouver.
Ah, c'est donc bien gentil, Luc. Luc, je me demandais, est-ce que cet accident-là à LaGuardia, aéroport aux États-Unis risque de devenir politique. Parce que je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, lorsqu'il y a eu un shutdown, on a énormément parlé des contrôleurs routiers, des contrôleurs aériens, pardonne-moi, et du fait qu'ils étaient en surcharge de travail aux États-Unis.
Voilà. Il faut savoir, c'est un dossier qui est complexe. Et ce qui s'est passé, ben, tard hier soir ou tôt ce matin, là, ce qui s'est passé, on en sait relativement peu encore sur les causes exactes. Donc, on a des correspondances, on a des discussions entre les pilotes et la tour de contrôle, mais laissons l'enquête aller de l'avant. Mais il y a un risque politique, parce que tu l'as mentionné, quand on a eu fermeture des services gouvernementaux, ou encore lorsqu'Elon Musk, on l'a presque oublié tellement ça roule dans l'actualité, mais quand Elon Musk était, entre guillemets, à l'intérieur de la machine avec son Dodge, on a effectué un grand nombre de coupures, on a exercé une pression sur l'ensemble de la machine parce qu'il y a les contrôleurs aériens, mais tous ceux qui les entourent, qui les appuient dans ce travail. Donc, de ce côté-là, il y a eu des coupures et il y a eu un travail ou une charge de travail qui était plus lourde. C'est un vieux dossier sur lequel, finalement, on est venu jeter de l'huile sur le feu parce que ceux qui sont... je fais hélas partie du groupe plus vieux parmi nous, se rappelleront peut-être que sous Ronald Reagan, il y avait eu des coupures et depuis ce temps-là, on parle de la charge du travail pour les contrôleurs aériens. Donc, est-ce que tout le contexte politique, la gestion des coupures, la volonté, disait-on, puis on se rappelle peut-être de l'image très forte de la CHM, mais on voulait dégraisser la machine, couper dans la machine, est-ce que tout ça va revenir hanter l'administration Trump et sa gestion du budget. En passant, nous sommes encore dans... Les dossiers se croisent, qu'on le veuille ou pas. Nous sommes encore en fermeture de services gouvernementaux, une fermeture partielle cette fois-ci. Et ce sont plutôt les agents de la TSA, ceux qui, à l'intérieur des aéroports, assurent la sécurité. Bien là, eux se retrouvent dans une situation difficile. Puis le président a dit, on va vous envoyer les agents de ICE. Donc, on pourra en reparler, mais tout ça pour dire... Quand on parle de nos transports aériens, quand on parle des transits, de la circulation, de l'attente et de la sécurité des vols, j'étais parfaitement d'accord avec, c'est Charles qui était avant moi. Oui. Oui, donc voilà, parfaitement d'accord avec lui en disant ça demeure le moyen le plus sécuritaire, mais tu ajoutais tout à l'heure, ça frappe l'imaginaire et on s'imagine le nombre de morts à chaque fois et être à bord de ce vol-là ou être les pilotes concernés. Disons que si on est inquiet en partant, ce qui se passe au plan politique et au plan budgétaire, parfois ça vient jouer sur de l'insécurité. Alors que normalement, les choses se passent bien. Je suis un assez bon et assez grand voyageur. J'adore prendre l'avion. Je m'endors tellement je me sens en sécurité dès que je m'assois dans mon fauteuil. Mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde qui nous écoute.
Ben Luc, c'est quand même une bonne parenthèse que tu fais sur le shutdown partiel. Là, les milliers de fonctionnaires fédéraux du DHS qui ont été mis au chômage technique puis qui ralentissent les aéroports en fin de semaine. Je voulais voir un peu comment ça se passait. Fait que j'ai questionné mes amis qui voyagent pour le travail. Eux autres, écoute, ils voient la différence à chaque semaine. Puis ils me disaient 4 heures pour un contrôle de sécurité. Ben, 4 heures pour la sécurité parce qu'il y a moins d'employés. On ne peut pas faire de lien direct avec l'accident, mais on peut-tu faire un lien avec la gestion de Donald Trump en se disant oui. Il est-tu en train d'en échapper tellement qu'il a décidé d'en mettre dans son assiette puis de jouer avec son impulsivité?
Écoute, j'ai envie, et là, je sais que ça a une couleur politique, mais je vais récupérer une déclaration récente de Pete Buttigieg, qui, on se souvient, était le secrétaire au transport sous Joe Biden et qui a été candidat à la présidentielle aussi. Mais il a terminé une entrevue récemment en disant, en anglais, c'est « amateur hour » aux États-Unis. Ça sent le chaos et ça sent l'improvisation. Prenons juste le cas des agents du ICE qui, ce matin, se retrouvaient dans, je pense que c'était 12 ou 13 aéroports. Et là, peut-être que les gens qui nous écoutent se disent, ben écoutez, on manque d'agents de la TSA pour assurer la sécurité. En passant, ces gens-là sont obligés d'être au travail, même s'ils ne sont pas payés. On ne les envoie pas à la maison en n'étant pas payés. Ils doivent se présenter au boulot. Il y en a 10 % qui sont en congé de maladie. Ils préfèrent rester à la maison plutôt que de se présenter. Et on en a perdu, dernier décompte, je pense qu'on est rendu cette fois-ci à 400 départs. Et il y en avait déjà eu 1000 précédemment en 2025. Donc, si c'est des vases communicants, ben peut-être que dans la tête des gens, le calcul est simple à faire. C'est envoyeur des agents du ICE faire ce que font les agents de la TSA habituellement. Et c'est là où je dis que c'est amateur comme gestion. Hier, et il semble, à la lumière des réponses qu'on a obtenues, hier, le président dit « OK, on va envoyer ICE. Comment peut-on prendre des agents qui n'ont aucune formation dans le domaine? Parce que les agents de la TSC suivent de 4 à 6 mois de formation pour bien effectuer leur travail. Comment est-ce qu'on les forme en 24 heures? Mm-hmm. Imaginons qu'on soit capable de faire ça. Ça se peut pas. Imaginons qu'on soit capable de faire ça. Comment vous coordonnez ensuite des agents du ICE qui débarquent en grand nombre dans de très gros aéroports? Là, 4 heures, là, si on est à Atlanta, Minneapolis, on est à JFK ou à Los Angeles, c'est tout à fait possible d'attendre 4 heures. Comment est-ce qu'on organise le travail, le déploiement de ces agents-là et comment on coordonne avec les agents de la TSC?
Et en sachant, Luc, les débordements des agents ICE qu'il y a eu partout.
Voilà. C'est qu'on, ça fait craindre aux gens qui sont déjà dans une situation d'attente, d'impatience puis de chaos. On leur fait craindre que ça puisse déborder. Et en termes d'image, on envoie quoi comme image aux Américains qui, dans les sondages, c'est très, très fort comme réaction négative en ont contre les agents du ICE, incluant les Républicains et incluant certains partisans de Donald Trump. Et je rappelle, un des cas les plus spectaculaires, parce qu'on le connaît un petit peu plus, c'est l'animateur de balado de podcast, Joe Rogan, qui lui-même a dit au sujet du ICE, il appuyait cette espèce de chasse aux migrants illégaux, mais lui-même est revenu en disant, grosso modo, ce sont plus mes mots que les siens, je ne m'attendais pas à ça et c'est pas ça que je voulais.
Luc, d'une improvisation à une autre, on passe à la guerre en Iran parce qu'il y a de plus en plus d'improvisation là aussi. Donald Trump dit « Je vais tout détruire les sites énergétiques de l'Iran » pour arriver ce matin en disant « Hey, on a eu des bons pour parler ». On écoute un 30 secondes de Donald Trump au pied de son avion justement qui l'a amené au Tennessee. Il y a une petite traduction par-dessus là, de l'animateur de Québec Matin à LCN. C'est vraiment les 5 dernières secondes sur lesquelles je vais revenir avec toi, Luc.
But we've had very strong talks. Mr. Witkoff and Mr. Kushner had them. They went.
Mr. Witkoff and Kushner.
I would say perfectly. I would say that if they carry through with that, it'll end that problem, that conflict, and I think it'll end it very,
very substantially. Ça va mettre fin au conflit.
We have very much in mind our partners in the Middle East. We've had great relationships with a lot of them, as you know. A lot of them were surprisingly hit.
Ils ont été frappés de façon assez surprenante.
Bon, après avoir crié 4-5 fois qu'il avait anéanti l'Iran, après avoir dit « je vais tout scraper vos sites énergétiques », là, on règle ça avec des paroles. Mais moi, là, la fin, nos partenaires ont été... C'est surprenant de la façon dont ils ont été attaqués. On n'était pas prêt du tout à la réplique de l'Iran. On a joué au grand frère, les Américains, qui allaient tout détruire en 48 heures puis prendre le contrôle. Et c'est pas du tout ce qui arrive.
Écoute, depuis le début, d'ailleurs, aujourd'hui, si vous voulez savoir, quand on parle de chaos, là, gérer un pays de la taille des États-Unis, puis être transparent, ou à tout le moins bien guider sa population, mais être un pays du poids des États-Unis sur la scène internationale, quand un président ouvre la bouche, quand il prend une décision, ça a des retombées. C'est une réaction en domino, là, c'est pas long que tout s'enchaîne par la suite. Faites le bilan, si vous avez le temps. Amusez-vous à aller lire. Je dis amusez-vous, c'est pas le bon terme. Vous risquez d'être confus et la réaction va être normale. Faites le décompte de toutes les déclarations de Donald Trump puis analysez le contenu des déclarations de Donald Trump. Et il dit une chose et son contraire d'heure en heure. Si vous êtes un partenaire, si vous êtes l'Iran, bien sûr, on est en guerre, mais si vous êtes un partenaire, vous vous fiez à laquelle des déclarations, comment on se prépare pour la suite? Et est-ce qu'on est capable d'avoir une certaine cohésion en groupe et cohérence dans l'action? Et à l'évidence, l'administration Trump, quand on parle, c'est comme ça que tu l'as lancé, d'amateur hour, hein, ou de gestion amateur ou de gestion chaotique, les Américains, de plus en plus, ce qu'on apprend, c'est qu'ils ont accepté de suivre Israël dans ce dossier-là. L'armée américaine est suffisamment forte, habile et bien gérée pour effectuer des frappes et en dégager... C'est un peu dur et cruel, mais en dégager un maximum d'efficacité. Maintenant, il faut sortir de là après. Quels étaient les objectifs en entrant, puis comment on en sort? Juste pour ajouter au chaos, Donald Trump a dit ce matin également, puis on l'entendait dans l'extrait que Jean-François traduisait tout à l'heure, là, ce qu'il dit, c'est, ben, écoutez, l'Iran, finalement, ils sont prêts à nous parler. On discute avec eux. On a eu d'excellentes rencontres. L'Iran répond, non, on ne s'est pas parlé du tout. Donc, on envoie quoi comme message pendant ce temps-là? Parce que le dossier est complexe, mais on a entendu des représentants de l'OTAN et du Royaume-Uni, pas plus tard qu'hier, dire on est en train d'arriver à une forme de coalition de 20-22 pays qui seraient prêts à intervenir pour débloquer le détroit d'Ormuz, ce fameux détroit tellement important pour l'économie internationale, pas que pour le pétrole. C'est vrai que ça l'est, important. Mais on a dit donc qu'on serait prêts même à intervenir. Le Canada s'est tenu avec le Japon, par exemple, un petit peu en retrait en disant ben, nous, on est prêts à signer une déclaration. C'est symbolique, mais c'est un appui à cet effort-là. Mais grosso modo, donc, on crée ou on tente de créer, on discute d'une coalition. Et pendant ce temps-là, le président américain dit une chose et son contraire en ayant, pas plus tard qu'il y a deux jours, insulté les mêmes partenaires.
Mais Luc, en terminant cette entrevue-là, là, une question super simple qui me vient en tête. Ouais. On peut-tu vraiment négocier avec l'Iran? Est-ce que l'Iran a vraiment négocié avec Donald Trump ou Donald Trump veut sauver la face en ce moment puis veut expliquer pourquoi ça pourrait finir un jour?
On peut vraiment négocier avec l'Iran, même si c'est, je veux que ce soit clair pour ceux qui nous écoutent, là, c'est un régime que je n'aime pas du tout et je condamne la gestion de ce régime-là. Une fois qu'on a condamné ça, est-ce qu'on est capable d'éviter que l'Iran, au plan international, ne fasse encore plus mal ou ne sévisse plus que ce qu'on faisait avant? C'est là où il y a un espace de négociation. Malheureusement, on ne peut pas intervenir dans tous les pays dans lesquels il y a des leaders autoritaires et des leaders qui traitent mal leurs concitoyens, qui en abusent ou qui, dans ce cas-ci, les torturent. Barack Obama est arrivé avec une entente avec l'Iran et jusqu'à preuve du contraire, l'Iran avait respecté cette entente-là. En gros, on assouplit les contraintes budgétaires, les sanctions financières qu'on vous a imposées et vous vous engagez à ne pas enrichir l'uranium. Moi, j'attends encore les preuves de l'administration Trump qu'on a enrichi de l'uranium, l'enrichir au point d'être en mesure de fabriquer une arme nucléaire. Il a été contredit par des gens de l'interne pas plus tard que la semaine dernière. Donc, est-ce que c'est possible de discuter avec l'Iran? On peut se mettre de l'autre côté puis se demander, est-ce possible de négocier avec Donald Trump? Parce que c'est exactement la question que ses alliés ont en tête. Donald Trump décide tout seul et il nous refile la facture. La question se pose dans les deux sens, je pense.
Oui, en effet, ça se pose pas juste dans le conflit avec l'Iran, ça se pose aussi avec le fameux plan de paix pour l'Ukraine, puis le consul de la paix pour la bande de Gaza aussi. Pas mal des initiatives en solitaire de Donald Trump qui donnent pas de résultats jusqu'à présent. Luc Laliberté, toujours un bonheur de te parler. Merci de contribuer à l'émission On en jase et je te souhaite une excellente semaine.
Bonne journée à vous, bonne journée aux auditeurs. Bye.
Salut. Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine. Suivez-le si vous ne le faites pas sur les différents médias sociaux. On va revenir plus terre à terre dans la province de Québec et même à l'Assemblée nationale ici à Québec avec Victor Henriquez dans un instant à Boulevard 101 à l'émission On en jase. Maïté Blanchette Vézina et Éric Duhaime se seraient échangés les bagues.
Oui, il y a une alliance politique. Ils se sont frenchés politiquement parlant officiellement. Ils sont plus juste en train de tenter le terrain pour savoir s'ils pouvaient fitter ensemble.
Ce sera annoncé demain et ça permettrait à Éric Duhaime de faire son entrée à l'Assemblée nationale. Souviens-toi, Pascal, Anthony nous avait expliqué à quel point c'était important pour qu'il puisse participer au débat des chefs à la prochaine campagne électorale.
Ça lui donne beaucoup de visibilité.
Exactement. Donc, on en parle immédiatement à Boulevard 101, l'émission On en jase avec Victor Henriquez. Oh oui, On en jase, ton émission d'actualité du midi sur les ondes de Boulevard 101 avec Jeff Fortin, Pascal CV. À la météo, faible neige se changeant en averse de neige parfois forte cet après-midi avec des vents de 30 km/h pouvant se transformer en rafale à 50 km/h. Ce soir, cette nuit, averse de neige parfois forte cessant en fin de nuit. Demain, très belle journée, alternance de soleil et nuages, 30% de possibilité d'averse avec 1 degré. Et pour mercredi, c'est moins 4 degrés, alternance de soleil et nuages. Circulation, Pascal?
Oui, bien, je dois vous dire que ça roule sur les routes en ce moment, mais je dois vous rappeler qu'il y a des travaux à la tête des ponts qui ont commencé aujourd'hui. À la sortie numéro 23, c'est l'avenue des Hôtels, jusqu'à la route 175 Boulevard Laurier en direction nord. Ça, c'est fermé jusqu'à juillet. Alors, c'est fermé jusqu'à temps que le soleil plombe sur nous.
C'est ça.
Le ministère des Transports a expliqué que c'est une entrave qui est requise. On réaménage la chaussée Les Bretelles de l'avenue des Hôtels. C'est dans le cadre de la construction du corridor pour autobus. Alors, voilà pourquoi on a à faire des détours. Avion d'Air Canada Jazz en provenance de Montréal qui est entré en collision avec un camion de pompiers lors de son atterrissage à l'aéroport LaGuardia de New York hier soir. C'est la nouvelle de la journée. L'accident a fait 2 morts, soit le pilote et le copilote. Selon les médias américains, on rapporte qu'il y avait 41 personnes à l'hôpital dans les dernières minutes. L'aéroport a stoppé ses activités. On est en train de reprendre tranquillement pour cet après-midi. Mais quand même, on avertit la population qu'il y avait des perturbations importantes. Annulation de vol, ralentissement de circulation, présence accrue de services d'urgence. Je parlais ce matin à Charles-Éric Lamarche, qui est expert en aviation. Est-ce qu'on aurait pu éviter le camion de pompiers dans lequel l'avion a foncé?
Non, c'est extrêmement difficile de réagir à ce moment-là. C'est un avion qui est en train de terminer sa course à l'atterrissage. On est en freinage. C'est extrêmement difficile. On est en ligne droite. C'est un avion qui est très pesant, malgré que ce soit un jet régional. C'est très pesant. Vous avez un véhicule qui vous coupe la route. On a de la misère à réagir en voiture. Imaginez lorsque vous avez un avion là, qui pèse plusieurs dizaines de tonnes. C'est vraiment pas évident. Donc, en aviation, la clé pour se sauver du trouble, c'est toujours la vitesse et l'altitude. Alors, à l'atterrissage ou au décollage, c'est toujours des moments où on est extrêmement vulnérable.
160 km/h, c'est la vitesse à laquelle l'avion aurait foncé dans le camion de pompiers. Quel accident tragique.
Oui, là, il y aura un autre enregistrement qui serait rendu disponible, Pascal. Et dans cet enregistrement-là, on entend un contrôleur routier dire « Je sais, j'y étais, j'ai tenté... » Un contrôleur routier, je suis sûr, contrôleur routier, contrôleur aérien. « Je sais, j'y étais, j'ai tenté de contacter pour les arrêter. » Nous avons une urgence ici, j'ai cafouillé. Et l'autre personne dit non, tu as fait de ton mieux, peut-on entendre sur cet enregistrement-là? Donc, évidemment, au compte-goutte, on va avoir des nouvelles informations.
Oui, bien, reprenez l'entrevue qu'on a fait avec Charles-Éric Lamarche en début d'émission parce qu'il l'explique. Lui, il a tout écouté les bandes puis nous l'a résumé. Hein. Il dit arrêtez-là, s'il vous plaît. Arrêtez. Camion 1, arrêtez. Ils ont tenté, mais on a beaucoup d'explications par rapport aux bandes audio. Aujourd'hui aussi, que s'amorcent les audiences sur la loi sur la laïcité. C'est la loi 21 à la Cour suprême du Canada. Bon, tout ça, c'est 9 juges qui vont devoir se pencher sur la question de l'utilisation de la clause dérogatoire par les provinces canadiennes. Dans ce qui nous occupe, nous, là, cette clause-là doit permettre au gouvernement du Québec de placer la loi 21 à l'abri de contestation judiciaire, ce qui est énorme, en fait. Donald Trump a repris le micro dans les dernières heures. Il a dit qu'il avait le plaisir d'annoncer que les États-Unis d'Amérique et l'Iran ont eu, dans les derniers jours, des discussions fructueuses, constructives, en vue d'un règlement complet et définitif des hostilités avec le Moyen-Orient. Vous en pensez ce que vous voulez, mais est-ce qu'on peut se croiser les doigts et rêver à une trêve ou à une fin de cette guerre? Peut-être. Sinon, dans la politique plus près de chez vous et chez nous, Maïté Blanchette Vézina, l'ex-ministre caquiste qui est devenue élue indépendante, se joindrait au Parti conservateur du Québec et devrait faire l'annonce demain. Et pour Serge Bonin, au municipal, il quitte Repensons Lévis pour le PQ.
On en parle immédiatement dans le caucus.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Niacarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le caucus avec Antonin Niacarini, normalement du lundi au jeudi entre midi et 12h30. On a Victor Henriquez avec nous aujourd'hui et Pascal en raison de cet accident d'avion à l'aéroport LaGuardia. On a déplacé le tout à 12h45 tapant. Victor Henriquez, comment vas-tu mon ami?
Ça va très bien, Jeff, toi?
Ça va super bien. Victor, Maïté Blanchette-Vézina, c'est enfin fait! Le mariage avec Éric Duhaime, ce mariage qu'on attendait depuis des mois, cela dit, c'est un excellent coup d'Éric Duhaime.
C'est un excellent coup d'Éric Duhaime. Ça va lui permettre de finir justement cette dernière session en force. Deuxième députée conservatrice après Claire Samson, qui avait fait un geste semblable à la fin de la dernière législature. Et en même temps, c'est la conclusion d'une fréquentation qu'on avait vue venir, hein. On avait vu les premières dates après le départ de Maïté Blanchette-Vézina de la CAQ. On avait vu aussi la présence de Maïté Blanchette-Vézina au congrès du Parti conservateur. Donc, c'était écrit dans le ciel que ce moment-là allait arriver. Elle avait déjà dit son intention peut-être d'être candidate conservatrice. Ça va permettre à Éric Duhaime de rentrer à l'Assemblée nationale, d'avoir une députée conservatrice. Ça lui permet d'avoir du temps d'antenne, du temps de parole dans l'enceinte de l'Assemblée. Ça, c'est intéressant pour lui. Et ça vient un peu avec l'air d'aller qui a en ce moment, il est à égalité avec la coalition Unir Québec dans les sondages. Donc, on est dans une belle mouvance pour Éric Duhem, qui peut, à la prochaine élection, espérer avoir plus qu'un comté, d'ailleurs. Parce qu'on voit déjà, dans Québec 125, il est en avance dans plusieurs comtés intéressants. On a du PCQ solide à plusieurs endroits. Donc, bravo pour cette prise. Maintenant, Mme Blanchette Vézina aura fort à faire. Dans le comté de Rimouski, en ce moment, les prévisions donnent le PQ victorieux. Mais en étant candidate, en étant connue dans sa région, qui sait, hein, les chiffres vont bouger de toute façon d'ici l'élection.
Est-ce qu'on pourrait la parachuter ailleurs, Victor? C'est notre collègue Mathias qui a fait une recherche pour nous. Elle a habité 10 ans à Québec. Elle vient de Montmagny. Là, elle est à Rimouski. Quand on regarde, il y a des comtés à Québec prenables pour le PCQ. À Montmagny, le PCQ bataille fermement avec le PQ. C'est 2 % de différence sur Québec 125. T'attends ça, un parachutage?
Je m'attends à ce qu'on ait bien négocié du côté de Maïté Blanchette-Vézina. Alors là, il y a deux possibilités dans ce cas-ci. Soit elle veut finir en force et elle considère que soit elle est élue dans sa région natale ou est-ce qu'elle était déjà élue ou elle préfère ne pas continuer en politique, ou elle a l'intention de faire de la politique à long terme et là, on va avoir un changement de comté dans son cas. Comme tu dis, très certainement, Montmagny, il y a plusieurs autres options dans la région de Québec, mais un comté où est-ce qu'on est déjà plus proche d'avoir une représentation du Parti conservateur, on va vouloir partir avec quelque chose d'un peu plus solide. Si elle désire rester députée, si elle veut rester à Rimouski, ben là, on aura le signe que peut-être que de son côté, elle préfère prendre le risque, quitte à ne pas être députée à la prochaine législature.
Victor, autre dossier. Serge Bonin, le chef de Repensons Lévis. Faut clarifier... À Lévis, lorsqu'on n'est pas élu maire, comme c'est arrivé à Serge Bonin, il n'y a pas de colistier. Donc, il n'était plus membre du conseil de ville. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il annonce quitter la direction de Repensons Lévis pour tenter de se présenter pour le Parti québécois dans Chute de la Chaudière.
C'est mêlant, ça, pour les gens.
C'est très mêlant
pour moi.
Ben, c'est pour ça que je voulais le spécifier, parce que normalement, on se dit, ben voyons, c'est le chef de l'opposition à Lévis, fait que là, il sac son camp de la ville pour aller au provincial.
On peut prendre même négativement, parce qu'on se dit, Colin, on t'est quand même élu comme étant l'opposition, peux-tu nous représenter si on ne voulait pas que ce soit un
Exactement, mais il n'a pas été élu aux dernières élections. Alors, décide d'aller dans Chute de la Chaudière. Là aussi, c'est une lutte à finir entre le PQ et le PCQ, selon Québec 125. Bonne candidature pour le PQ, selon moi. C'est un gars bien connu dans la région.
Oui, candidature intéressante dans la région, candidature connue dans ce secteur-là. Je suis d'accord avec toi, Pascal, il va y avoir de la critique sur le fait de dire ben, pourquoi je suis de la Chaudière, pourquoi pas rester dans ce coin de Lévis où est-ce qu'il y avait des assises. Alors, il sera déjà ouvert à la critique. Le Parti conservateur va certainement présenter une candidature de qualité dans Chute de la Chaudière, puisque en ce moment, c'est un PCQ en clair, donc on peut attirer quelqu'un de haut niveau. Alors, ça va être une course intéressante. C'est un nom qui résonne beaucoup dans la région, qui résonne moins à l'extérieur. Et ça va être important aussi au PQ d'avoir des candidats très forts régionalement parlant. Ça va permettre, c'est le genre de candidat qui rejaillit sur plus qu'un comté. Hein. Tu le présentes dans Chute de la Chaudière, mais ça peut avoir un effet intéressant dans Lévis aussi. Donc, c'est là où est-ce que il y a des espèces de bases communicantes dans ces régions-là. Alors, on passe le message au PQ qu'on est capable d'attirer de bonnes personnes, mais des gens d'expérience et de terrain aussi.
Victor, est-ce que la majorité du prochain gouvernement provincial va jouer dans la région de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches avec ces batailles-là, PQ, PCQ?
Tu vois, c'est un peu tôt pour faire cette prédiction-là, mais ça fait partie pour moi des grands endroits à surveiller. C'est sûr que si le Parti conservateur fait une razzia dans la rive sud de Québec, et là je parle de la Beauce, je parle de Chaudière-Appalaches, je parle de la grande rive sud, okay, on va le présenter comme ça, là, de façon élargie, c'est sûr qu'à ce moment-là, la possibilité d'un gouvernement majoritaire s'éloigne pour le Parti québécois. Ça va jouer aussi dans quelques autres régions. Je pense notamment à l'Estrie, je pense à la Mauricie, je pense à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a des régions comme celle-là où est-ce que, du côté du PQ, pour atteindre une majorité forte, on a besoin d'aller faire le plein dans ces régions-là. Mais oui, la rive sud de Québec sera certainement centrale. Et on aura à voir aussi, dépendant des choix à la chefferie de la coalition Avenir Québec, quelle sera la mouvance de cet électorat-là? Parce qu'il y a clairement aussi des vases communicants potentiels entre le PCQ et la CAQ, si Bernard Drinville est chef. Mais ces vases-là sont beaucoup moins forts si Christine Fréchette est chef. Donc, ce sera là où est-ce qu'on pourra voir l'évolution de la chose.
J'aime que tu m'amènes à Bernard Drinville et Christine Fréchette parce qu'il y avait un débat samedi. Pascal, as-tu écouté ça?
Oui, j'ai écouté ça.
Ouais. Puis... Victor, tu l'as regardé aussi? Oui, moi aussi.
Tout à fait.
Puis, vous avez été emballé, le popcorn, la bière, c'était divertissant?
Pas tant que ça.
Non?
J'ai déjà vu.
T'as bien compris mon sarcasme.
Oui, j'ai déjà vu plus excitant, puis pas besoin d'aller dans l'extrême.
Non, c'est ça. Victor, t'es du même avis que nous?
La bière, c'était un peu tôt, mais je l'ai trouvé bon, moi, le débat. Moi, je t'avoue que j'avais écouté le débat des libéraux. Clairement, à
ouais,
5,
c'est vrai que
après
mieux.
10 minutes, j'étais plus capable.
Ouais, j'assistais à celui à Québec, puis ça a duré 1h30 de supplice mental.
C'est trop dur pour moi. J'ai pas réussi à en finir un seul, puis il y en a eu plusieurs. Du côté du débat de samedi, je l'ai écouté au complet, je l'ai trouvé intéressant. Je trouvais qu'il était super indicatif. Moi, j'ai vu deux CAQ. J'ai vu la CAQ de Christine Fréchette, qui va essayer de manger le lunch de Charles Millard. Puis j'ai vu la CAQ de Bernard Drinville, qui va essayer de manger le lunch d'Éric Duhaime. Là, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est pas juste un choix de chef ici. On a littéralement un choix de philosophie politique. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, on connaît la CAQ comme le parti de François Legault. Mais là, c'est un parti qui va essayer de se positionner sur l'échiquier. Ça va être une compétition directe avec Éric Duhaime parce que tu sais quoi? Éric Duhaime sera plus expérimenté comme chef que le ou la prochaine chef de la CAQ.
Puis, sais-tu quoi? Ça me ramène là, dans un moment de ma vie, une époque de ma vie où Bernard Drinville et Éric Duhaime faisaient une émission encore ensemble, donc se posaient quotidiennement sur des enjeux qui reviennent dans l'actualité maintenant que les deux sont en politique. Si jamais Bernard Drinville remporte la course à la chefferie, ce qui n'est pas selon les sondages la première chose qui pourrait arriver, t'as raison, Victor, on va voir, le Québec serait découpé d'une autre manière au niveau idéologie, là.
Oui, puis il risque de s'obstiner un peu moins en politique qu'il s'obstinait à la radio dans le temps, parce que moi, j'ai vu aussi Bernard Drinville évoluer. Je soupçonne Éric Duhaime d'avoir eu beaucoup d'influence auprès de lui, si on l'écoute maintenant, dans ses années de radio. Finalement, il écoutait peut-être plus qu'on le pense, Bernard.
T'as entièrement raison. Victor, je te fais entendre, c'est un 55 secondes. C'est Mathias Surcotte, notre journaliste, qui était sur le terrain samedi et qui est allé recueillir les réactions des membres de la CAQ après le débat.
Je ne peux pas dire qu'on a appris beaucoup de choses nouvelles. Là. Ça a consolidé les positions qu'on connaît des gens. Puis nous, on appuie sans réserve Mme Fréchette. Fait que c'est pas ce débat-là qui nous fait changer d'idée.
Que M. Drinville répond plus aux questions, franchement. Il dit vraiment ça, le fond de sa pensée.
Bon, je pense qu'on a plus de chances d'avoir du changement avec M. Drinville, moi aussi. Il répond plus directement aux questions.
Bien aimé les réponses de Mme Fréchette.
Honnêtement, moi, je trouve que M. Drinville a été très, très solide là, pendant le débat. On s'entend en maîtrise de ses dossiers.
C'est quand même un débat équilibré. Et je pense que chaque candidat a sa chance d'abord.
Ben, moi, je vous dirais que au départ, j'étais plus Mme Fréchette, parce que bon, on connaissait Bernard pour ses positions et tout, mais que quand tu écoutes les débats et tout ça, tu te rends compte que Bernard est... En tout cas, moi, oui, ça va changer ma position, assurément.
Bon, je sais qu'on est à Québec, je sais qu'on est dans le fief de Bernard Drinville, mais il est-tu en train de faire tourner le vent de bord, notre ami Bernard?
Ça va prendre plus que ça pour faire tourner le vent, d'après moi. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que pour moi, samedi, il a remporté ce débat. Il a fait une très bonne performance. Son ton a changé aussi. Clairement, du côté de Bernard Drinville et de son équipe, on a bien compris que les attaques contre Christine Fréchette avaient été peut-être un peu loin dans les dernières semaines, puis on a voulu ramener le ton à quelque chose d'un peu plus civilisé. Madame Fréchette, d'ailleurs, a été la première à porter une attaque, hein, cette fameuse attaque sur le troisième lien, puis l'ego de Bernard Drinville.
On ne choisit pas. Hey, on l'écoute d'ailleurs, Victor, cette attaque-là.
Allons-y.
Par rapport au troisième lien, ben moi, j'ai fait ta job, je dirais Bernard, parce que j'ai appelé les gens pour les consulter. Et rapidement, je me suis fait dire qu'ils n'avaient jamais été appelés, même à Lévis. Alors, c'est important qu'on les entende, ces gens-là. Le tracé, là, on le choisit pour eux, pour les gens qui sont ici, pas pour toi, pas pour ton ego, pour les gens qui vont l'utiliser, ce troisième lien.
Hey, je trouve ça tellement, comment dire, je veux pas dire sauvage, mais je veux dire sauvage. Entre les deux en ce moment-là, il y a une fracture quand même importante. Ils se piquaient littéralement, puis tu le vois aussi dans les gens qui assistaient, là, il y a une fracture qui s'est créée, non?
Ben, c'est sûr qu'il y a une fracture, puis c'est sûr que c'est ça que ça fait une course à la chefferie. Puis, t'sais, moi, j'ai adoré ce moment-là parce que pour les partisans de Christine Fréchette, c'est un moment où est-ce qu'ils se sont dit « OK, elle est capable d'aller boxer ». Et ça, c'était important pour Christine Fréchette de montrer que si on avait besoin de monter le ton, si on avait besoin d'amener un peu plus de rigidité dans l'attaque, puis qu'on avait besoin d'être un petit peu plus piquant dans les propos, elle était capable d'y aller. Bernard Drinville a repris la balle au bon. Ça, là-dessus, c'est une expérience qui rentre. Hein. Tu sais, c'est un format qu'on voyait Bernard Drinville contrôler. Tout de suite, Bernard Drinville a dit, « Christine, je recommande de ne pas aller dans le personnel. » Et là, ce qui arrive, c'est comment tu positionnes ton attaque. Et son attaque a été positionnée à Mme Fréchette, à un moment donné où Bernard Drinville pouvait répliquer. Tu ne donnes pas une balle en plein centre du marbre à un gars de cette expérience-là. Il l'a repris assez rapidement. Mais tu sais quoi? Tout le monde est sorti de cette attaque-là satisfait. Ça nous a donné le temps. Bernard Drainville n'a pas répliqué de cette façon-là et il ne devait pas le faire. Donc ça, là-dessus, il a été très bon. Alors oui, c'est un format qui l'a favorisé. C'est un exercice dans lequel il a très bien paru. Maintenant, est-ce que ça va permettre de non seulement changer les indécis de bord, parce qu'on sait qu'il y en a à la Coalition Avenir Québec, mais ça va prendre des gens qui appuyaient Christine Fréchette qui tout d'un coup vont s'en aller appuyer Bernard Drainville, d'après ce qu'on comprend dans les sondages actuels. Donc, peut-être que ce ne sera pas assez. Maintenant, il y a une chose, si c'est le début et que samedi, on voit un autre débat, parce que Bernard Drainville prend le dessus sur Christine Fréchette, sur des sujets-là qui seront beaucoup plus terrain, santé, éducation, immigration, ben là, on pourra avoir une mouvance qui se prolonge jusqu'au 12 avril prochain.
Oui, quand tu parles de Bernard Drainville qui s'est assagi face à sa critique envers Christine Fréchette, en voici un bel exemple.
J'ai noté qu'à deux reprises, vous avez dit « ça prend pas des propositions beige, ça prend pas un candidat beige mm-hmm. ». C'est une manière plus ou moins subtile de dépeindre votre adversaire comme étant beige. C'est comme ça que vous la trouvez, c'est ça?
C'est votre analyse.
Ah oui?
Oui, c'est votre analyse. Moi, je vous dis juste qu'on n'est pas beige.
Je ne suis pas beige, mais je ne traite pas Christine Fréchette de beige.
C'est votre analyse.
C'est votre analyse, c'est bien fait.
Je ne vous dis pas que vous avez tort.
C'est ça.
Mais je ne vous dis pas que vous avez tort. Je ne vous dis pas que vous êtes dans le champ, puis je ne vous dis pas que je n'aime pas ce que vous me posez comme question.
C'est une belle façon de ne pas trop être dur envers Mme Fréchette. En terminant, Victor, en une minute, c'est commencé pour 4 jours. C'est les audiences devant la Cour suprême pour la loi 21 sur la laïcité. Tu t'attends à quoi? Il va y avoir une coupe de freak show là-dedans ou ça devrait être pas si pire?
Non, ça devrait être intéressant, puis je m'attends à ce que ça parte dans deux sens, parce que, tu sais, il y a deux choses ici qu'on regarde. Il y a du monde qui vont plaider sur le fond de la loi 21, hein, l'aspect discriminatoire de la loi et tout ça. Et la réalité, c'est que la Cour suprême, principalement, ce qu'elle va regarder, c'est est-ce que tu peux, dans une loi, intégrer à la base la clause dérogatoire? Donc, ce qui dit aux gens, de toute façon, même si tu contestes la loi, tu ne pourras pas la changer. Ça, le but, c'est de décourager les gens de contester la loi. Et là, la Cour suprême doit prendre une décision qui va être hyper importante pour la notion de fédéralisme. Parce que le Québec, ce n'est pas le seul qui utilise la clause dérogatoire. Hein. Les provinces l'utilisent de plus en plus. Et là, ce que le fédéral dit, c'est tu es supposé l'utiliser après que ta loi soit contestée. Pas avant même qu'elle soit contestée, sinon tu décourages le fond. Et ça, moi, je trouve ça intéressant parce que c'est la relation qui va changer, la relation qu'on a avec justement la Charte des droits et tout ça qui peut changer à travers ça. Et bien entendu, il y aura aussi le fond de la loi 21 sur lequel, moi, je pense que la Cour suprême va être plus prudente, par exemple, parce que c'est là où est-ce qu'on ne voudra pas donner de matériel. Une chose est claire pour tout le monde, on va en entendre parler cette semaine et après ça, ça va peut-être prendre plusieurs longs mois avant d'avoir une réponse. Et je vous garantis que ça ne sortira pas en plein milieu d'une campagne électorale. Donc, attendez-vous à ce que ce soit plus à la fin de l'année ou en début d'année prochaine de ce côté-là.
Victor Henriques, merci beaucoup d'avoir frappé en relève. À Antonine Iaccarini, merci d'avoir accepté de déplacer le moment pour cet accident d'avion, on le rappelle, à LaGuardia Aéroport dans la région de New York.
Tu me donnes juste une seconde, j'allais chanter bonne fête à Pascal.
Bien sûr, vas-y.
Je respecte nos auditeurs, je ne chanterai pas, mais bonne fête Pascal et je te souhaite une merveilleuse journée.
Merci Victor.
J'adore Victor Henriques. Max devrait prendre exemple sur Victor, il ne chante pas.
Mais Victor, je peux prendre un message audio, pas de problème sur mon cellulaire, tu as mon numéro.
Dans quelques secondes.
Salut Victor, merci beaucoup. Salut. Vous le savez, à Boulevard 101, je vous dis abonnez-vous à votre page YouTube pour voir nos podcasts et c'est justement présentement sur nos ondes. Et ça sera diffusé ce soir à 19h, le podcast Histoire d'entrepreneurs avec Joannie Fortin, notre collègue de Weekend Radio. Et pour le quatrième épisode, Joannie s'entretient avec Marie-André et Geneviève Turgeon, deux sœurs à la personnalité colorée de la famille propriétaire de l'auberge La Gouéliche à l'île d'Orléans.
Ça quelle être... auberge, alors!
Et puis ça, pour être coloré, ils sont colorés, je les ai déjà rencontrés. Ils sont très drôles, les sœurs Turgeon. L'histoire remonte au milieu du 21e siècle, successivement rebaptisée et entretenue par diverses familles au fil des décennies, après un incendie tragique qui a détruit entièrement le bâtiment en 1996. Il a été reconstruit avec élégance et rouvert en 1997. Et depuis, Marie-André et Geneviève poursuivent avec passion cette aventure d'hospitalité et de restauration ancrée dans le patrimoine local. J'avais dit 21e siècle, mais c'est 20e siècle, pardonnez-moi. C'est commandité par équipe Marc-Antoine Reed, IG Gestion privée de patrimoine, la planification financière et fiscale pour entrepreneurs. Votre conseiller vous met-il au cœur de votre plan? Si ce n'est pas le cas, Rencontrez-en un qui le fera. Équipe marc-antoine-reed.com. Après la pause, Pascal, on a perdu ce vendredi un grand du sport au Québec, Roger Brulotte. On va s'entretenir avec son comparse des peut-être des 40 dernières années, Jacques Doucet. J'ai très hâte à cette entrevue. Et pour s'y rendre, on écoute le personnage Roger Brulotte.
5-9 avec un circuit en carrière face à Anthony Young. Derrière les frappeurs, c'est des bandes sur le champ gauche. À la piste de l'avertissement, circuit Larry Walker! 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 Loin dans la gauche, les Expos à 3 match des Pirates, Larry Walker!
Après la... Oh oui. Après la pause, Jacques Doucet, qui a entendu ça dans ses écouteurs pendant 40 ans, les cris de Roger Brulotte, sera avec nous pour parler de son grand comparse qui nous a quittés à l'âge de 79 ans. Vendredi dernier, c'est à l'émission On en jase sur Boulevard 102. Il est précisément 13h06, émission On en jase, ton émission d'actualité du midi. On analyse également pour toi la politique. Normalement, du lundi au jeudi, c'est le caucus avec Antonine Iacarino. On le fait avec Victor Henriquez aujourd'hui. 418-971-1021 pour interagir avec nous. On a une auditrice qui nous écrit « Comment ne pas sourire lorsqu'on entend Roger? Bon voyage, cher monsieur. »
Ça a marqué votre enfance pour beaucoup. Là.
C'est l'enfer.
Je me suis fait dire que la radio accompagnait tellement de jeunes dans les games de hockey et les games de baseball avec un genre de petit radio dans la chambre.
Exactement.
Pour s'endormir.
Il n'y a pas d'Internet dans le temps. Puis moi, je m'endormais avec les expos. Avec la voix de Jacques Doucet qu'on va entendre dans quelques instants, justement, notre émission, on va l'interviewer concernant la mort de Roger Brulotte. Ce matin également, on s'est entretenu avec Denis Cazavant, autre grand comparse de Roger Brulotte sur les ondes de RDS dans le baseball. Et je vous fais entendre justement le moment marquant de la carrière de Denis Cazavant avec Roger Brulotte.
Et la balle est frappée sur une base direction de Chassandre. Long course pour Grissom. Il a de la place. Partie parfaite pour Dennis Martinez.
27 frappeurs qu'il a affronté. Il les a tout retirés. Dennis Martinez. Un match parfait pour les Expos.
Un souvenir de mon enfance, Pascal CV. 1991, j'avais 12 ans. On était à la maison. Un dimanche après-midi, on préparait le souper. C'était ma mère qui préparait ça parce que le match était à Los Angeles, donc 3 heures plus tard. Et on a vu le match parfait en entier de Dennis Martinez à la télévision. Un match parfait, c'est le lanceur qui retire les 27 frappeurs de façon consécutive, sans accorder de but sur balle, sans accorder de coup sûr, sans qu'il y ait d'erreur. C'est le seul match parfait dans l'histoire des Expos. C'est en 1991. En 1992, Pedro Martinez avait réussi aussi 9 manches avec 27 retraites de suite, mais c'était 0-0 à ce moment-là après nos manches. Les Expos ont gagné 1-0 en 10e, mais Pedro a accordé un double en 10e manche, donc il n'a pas eu le match parfait.
Vous avez été sur le bout de vos sièges longtemps, par
exemple. Ah, que de beaux souvenirs, les Expos. Les Expos manquent, c'est comme ça. On parle dans quelques instants avec Jacques Doucet, mais en attendant, Pascal, qu'est-ce qu'on retient dans l'actualité?
C'est la nouvelle de la journée. C'est un tragique accident qui sort un peu du réaliste hein, qu'on se connaît. Accident d'avion, pilote, copilote qui sont décédés dans cet accident-là avec l'avion d'Air Canada Jazz en provenance de Montréal. Bon, l'avion était parti hier soir. Il atterrissait du côté de LaGuardia à New York et est entré en collision avec un camion de pompiers pendant son atterrissage. 41 personnes à l'hôpital. On a tout stoppé les activités. On commence à les reprendre un peu, mais il y a surtout les bandes sonores, les bandes radio qui commencent à sortir où on entend « Arrêtez-là, s'il vous plaît. On arrêtez. Camion 1, arrêtez. » Et on a essayé de communiquer avec le camion de pompiers. On voit des images, on regarde ça aussi pendant les blocs publicitaires ensemble, Jeff et moi, puis ça a donné des frissons. Là. C'est tout un impact. On aura plus d'informations au courant de la journée. Il y a une enquête, c'est sûr, là-dessus, il faut savoir. Là. Est-ce que les contrôleurs aériens étaient surchargés? Est-ce qu'on avait trop d'avions qui passaient sur le tarmac? Est-ce qu'il y avait trop de problématiques? Parce que le camion de pompiers s'en allait porter assistance
Exactement.
À un autre avion. Il y a beaucoup de choses qu'on s'explique mal pour le moment. Un peu plus tôt à l'émission, on parlait avec Charles-Éric Lamarche, qui est expert en aviation, puis lui a dit qu'on n'aurait pas pu éviter le camion de pompiers du côté des pilotes d'Air Canada. C'était vraiment assuré qu'on allait faire une collision comme celle-ci.
Ça va être d'ailleurs disponible sur le blvd.fm immédiatement après l'émission.
Oui, absolument. On va vous remettre ça sur le site web. Les usagers du réseau de transport de la capitale, vous le savez, devaient se rabattre sur d'autres façons de se... transportés aujourd'hui que leur parcours habituel. Pourquoi? Ben, on est dans les débuts de travaux du tramway. En fin de semaine, ça a commencé. Et là, on dit qu'il y a de la confusion, mais il n'y a pas d'événement majeur, il n'y a pas d'embûche significative. Et c'est le soleil qui est allé sur le terrain ce matin. On vient d'en faire un genre de compte-rendu. Plusieurs usagers ont témoigné une confusion pour prendre l'autobus en fin de semaine. Encore une fois, aujourd'hui, c'est la même chose, mais c'est un constat positif des premiers jours du réseau modifié que l'on dit du côté du RTC. En politique, Maïté Blanchette-Vézina ferait le saut au Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime. Ça serait une annonce qu'on attend pour demain, mais on est pas mal en train de l'affirmer un peu partout que l'ex-ministre Kakis, qui était devenue élue indépendante, se joindrait officiellement au Parti conservateur du Québec. Et Serge Bonin, au municipal, quitte Repensons-Lévis pour le Parti québécois. C'est une annonce qu'on a eue aussi ce matin.
On va à l'instant même rejoindre Jacques Doucet, comparse de tant d'années à la radio, à la description des matchs des Expos avec Roger Brulotte et plus récemment à TVA Sports pour la diffusion des matchs des Blue Jays de Toronto. Monsieur Doucet, comment allez-vous?
Ça va bien, merci.
Ben, ça fait plaisir, Monsieur Doucet. Merci infiniment de nous accorder du temps. Moi, je veux vous l'avouer, là, je parle avec un idole de radio aujourd'hui. Là, j'en ai les frissons. Là.
Arrêtez, là.
Mais non, mais c'est vrai, Monsieur Doucet. Vous avez bercé mon enfance en décrivant les matchs des Expos. Je comptais hors d'onde à Pascal que moi et mon frère, on se faisait des montages cassettes des meilleurs moments parce qu'à la fin de la radiodiffusion, vous rediffusiez toujours tous les points du match. Fait qu'on avait Roger qui criait des circuits de Marcus Grissom, ouais. Larry Walker à pleine planche, cette cassette-là.
Ouais. C'est le bon temps.
Qu'est-ce que vous retenez le plus de vos années, justement, avec Roger Brulotte?
Ben, c'était un compagnon de voyage incroyable. Et Roger, je pense que sa marque de commerce, parce qu'il n'était pas très grand, lui, il ne craignait pas d'aller interviewer qui que ce soit. Ça pouvait être au Parc olympique, au Parc La Fontaine... peu importe où on était, à Los Angeles, à San Francisco, il arrivait et il disait, écoute, Jacques, ce serait le fun si on pouvait interviewer, je sais pas moi, Marcus Grissom. Il disait, vas-y, Roger. Il prenait le micro, puis il partait, puis il était sans gêne là-dessus.
Donc, il n'y avait aucune limite du côté de Roger Brulotte. Comment les joueurs des Expos percevaient Roger?
Ben, il l'adorait parce que, d'abord, il était pas grand. Alors, puis il faisait toujours exprès des fois. Il s'amenait un petit banc, là, puis il montait dessus pour aller interviewer un gars qui mesurait 6 pieds 7. Fait que, non, c'était un bonhomme, c'était un compagnon extraordinaire. Je m'en ennuie déjà.
C'est moi ou... parce que, bon, c'est un peu ignorant de ma part dans le sens où je suis pas une fille qui a baigné dans le sport. J'ai 32 ans seulement. Mais je vois que c'est un monument. Puis ça, je l'ai compris très vite et très tôt dans ma vie. Ce genre de monument sportif-là, il s'en fait très peu maintenant, non?
Vous avez entièrement raison. Parce que aujourd'hui, ça va tellement vite. Hein? S'il est d'actualité aujourd'hui, bien hier, c'est déjà du passé. C'est-à-dire, demain, c'est déjà du passé. Alors, dans le cas de Roger, lui, il n'y avait rien à son épreuve. Je le taquinais souvent parce qu'il n'était pas tellement grand. Mais il disait, va mettre tes talons en haut, là, puis va interviewer un tel.
Puis il partait, il allait le
faire. Ah oui, il n'y avait aucune gêne.
Roger a été connu pour sa fameuse phrase « Bonsoir, elle est partie ». On écoute ensemble, M. Doucet, son passage, son dernier passage à l'émission « Tout le monde en parle », où il raconte justement le moment où cette phrase mythique est arrivée.
Mon premier match que j'ai décrit, on est à San Diego. On joue d'après-midi.
Les Padres.
Il fait beau. La balle est frappée dans la droite. Pensez-y comme vous. En après-midi. La balle est frappée loin dans la droite. Bonsoir! Elle est partie en après-midi.
Puis c'est devenu...
Oui.
Bonsoir, elle est partie.
Et je vois encore Jacques Doucet qui me regarde. Il dit, Roger, sais-tu qu'on était à l'après-midi? Oui, mais il fait noir quelque part, Jacques, je te jure.
Combien de fois par jour on t'écoute?
Il y avait toujours une réplique.
Est-ce que c'est vrai? Vous lui avez dit ça? Voyons, on ne peut pas dire bonsoir, elle est partie en après-midi?
Ben oui.
Ah oui, hein? C'est ça. Mais
il n'y avait rien à son œuvre.
Ah, c'est ça, Roger. C'est un grand fonceur. C'est le moment marquant pour vous avec Roger, mais à la description, est-ce que c'est 1994, l'année où les Expos étaient en train de complètement lessiver le baseball majeur au complet, ou c'est d'autres moments là, qui vous viennent en tête? Si je vous demandais un top 3, tiens.
Non, je pense que ça vient pas mal en tête de liste. Moi, ce que je retiens surtout de Roger, c'était un compagnon de voyage extraordinaire, et il ne craignait pas de prendre le micro et interviewer, que ça aurait été le président des États-Unis, peu importe. Il n'y avait rien de son épreuve.
Je vous sens ému aujourd'hui. Des fois, ça fait ça, malheureusement, quand on perd des gens proches de nous. On se rappelle plein de beaux moments d'une époque ou quoi que ce soit. En êtes-vous nostalgique avec le décès de votre comparse?
Bien, évidemment, même si ça faisait longtemps, c'est-à-dire qu'on n'avait pas travaillé ensemble là, comme tel. Mm-hmm. Mais Roger, à l'occasion, le téléphone sonnait et il disait, moi, mon surnom, c'était Groucho. Il disait, hey, Grouch! C'est vrai. On partait, ça n'arrêtait pas.
Parliez-vous de l'avenir du baseball au Québec en général ou au Canada? Est-ce que vous disiez qu'il faudrait que les Expos reviennent? Y avait-il encore des frustrations quant au départ de l'équipe? Ou?
Ben écoutez, le baseball, c'est un sport qui était ancré dans nos mœurs. On a qu'à se souvenir de Jean-Pierre Roy. C'était... Pour moi, le baseball, c'est un des plus beaux sports au monde. Oui, le hockey, c'est le fun. Je l'ai joué. J'ai joué au football, j'ai joué au baseball. Pour moi, le baseball est un sport qui permet aux animateurs de pouvoir s'éloigner de ce qui se déroule sur le terrain et pouvoir faire profiter à leurs auditeurs de souvenirs qu'ils ont de l'année au fil des années.
Pour rappel, on parle avec Jacques Doucet, descripteur de baseball depuis plus de 50 ans au Québec et grand ami de Roger Brulotte. On revient sur le décès de Roger Brulotte. Monsieur Doucet, à quel point Roger a changé le baseball au Québec?
Bien, c'était surtout au Parc La Fontaine que Roger faisait sa marque. Roger était connu de tout le monde. Peu importe où on allait, qu'on soit à Los Angeles, à San Francisco, à San Diego, il y avait toujours quelqu'un qui connaissait Roger. Alors, pour moi, en tant que descripteur de match, c'était un atout incroyable parce que s'il me disait, Jacques, ce serait le fun si on pouvait voir Marquise Grissom en entrevue. Ben oui, Roger. Vas-y.
On y va.
Il n'y avait aucune gêne.
Ah, c'est écœurant. Monsieur Doucet, pour terminer l'entrevue, je vous fais écouter un de vos derniers moments avec Roger Brulotte et par la suite, on en parle. Pardonnez-moi, ça s'en vient. Mars 2018, alors que Vladimir Guerrero Jr. avec les Jays en match sur concours au Stade olympique frappe le coup de circuit gagnant en fin de 9e manche. Je retiens cette phrase-là. Merci pour la fraîcheur dans le stade. Ça vous a fait revivre beaucoup de moments, cette séquence-là?
Oh ben oui, évidemment. Et Roger était un compagnon de voyage extraordinaire parce qu'il n'y avait rien à son épreuve.
Non, c'est ça.
S'il disait, Jacques, ce serait le fun d'aller interviewer Richard Nixon, le président des États-Unis.
Y aller. Donc, M. Doucet, on vous remercie infiniment de nous avoir accordé du temps. On en jase aujourd'hui, ce midi, à Québec. Merci beaucoup pour ces années passées au micro avec Roger et ces années à nous décrire les expos. C'est des années marquantes pour le petit cul de Jeff Fortin qui était à cette époque-là.
Parfait. Good.
Merci.
Merci, bonne journée.
Au revoir, M. Doucet.
Au revoir.
Jacques Doucet, descripteur avec Roger Brulotte du baseball sur les ondes, justement, de différentes stations de radio. Pascal, si tu le permets, on écoute Roger Brulotte lorsque les expos ont quitté en 2004, à la fin de la saison, le 29 septembre. On écoute son dernier discours à la télé de RDS où il remerciait les amateurs. Il était en compagnie de Denis Casavant.
J'aurais jamais pensé de pleurer faire un match de baseball. Ça a commencé en premier manche et j'ai pleuré après l'hymne national. Je t'avais dit, Caz, septième manche, ça va être dangereux.
Ouais.
Ça a été dangereux, take me out of the ball game, je l'ai même chanté. Et ensuite de ça, je t'ai dit, à la fin du match, préparez-vous. Ah, ben là, ça n'allait pas trop pire. Et là, soudainement, on était debout derrière ici, en studio, et les gens criaient, Denis, Denis, Roger, Roger. Et là, tu regardes, tu dis, hey, ces spectateurs-là, là, on les verra plus.
C'est
on
fini,
les verra ouais. plus, c'est fini. Ouais. Et c'est là, mais veut pas, mais là, c'est assez ouvert. Et vous savez, être un homme dans la vie, c'est pas avoir peur de montrer ses sentiments à l'occasion. Okay. Montrer qu'on est heureux, c'est la chose la plus facile. C'est pas parce qu'on pleure qu'on n'est pas un homme. Lorsqu'on pleure, on montre un peu d'affection et aussi de passion et d'amour. Et envers les spectateurs, je pleure le départ des expos. Non pas le départ des expos, mais je pleure l'amitié que j'ai eue avec ces spectateurs-là et la passion avec les enfants qui ont pu découvrir les expos.
Proche des gens, je pleure l'amitié que j'ai eue avec ces gens-là. T'es toujours au devant. D'ailleurs, dans ce match-là, après le Take Me Out to the Ball Game en septième manche, les spectateurs se sont levés au Stade Olympique, criaient pas le nom des joueurs, ils criaient Roger. Roger, 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 parce qu'il était vraiment associé aux expos. La mascotte Youpi Pascal qui est orange, parce que Rusty Staub, qu'on appelait le grand orange à cause qu'il était roux, était le joueur préféré de Roger Brulotte. Et alors qu'il travaillait au marketing pour les expos, il a conçu la mascotte Youpi et l'a mis orange en l'honneur de Rusty Staub.
Mais je l'ai senti ému, puis ça m'a touché beaucoup. T'sais. Puis j'avais vu dans une entrevue en fin de semaine qu'il disait que c'était le frère qui n'avait jamais eu Roger Brulotte.
Ouais.
C'est ce que M. Doucet disait. Il disait d'entendre ces gens-là d'une autre époque qui ont vieilli, qui voient la société changer, mais sur lesquels ils ont pu se rattacher en société sans cellulaire, sans ci, sans ça, dans des événements sportifs où tu es tellement plein d'émotions. Puis ensuite, d'entendre ça, là, ce qu'on vient d'entendre, en disant « Hey, tu sais, on a le droit de montrer nos émotions, nous aussi. » Puis n'oubliez pas que démontrer la beauté de nos émotions positives, c'est pas mal la plus belle chose qu'on peut avoir dans la vie. Tellement de leçons de vie là-dedans.
Exactement. Donc, Roger Brulotte, un grand, nous a quittés vendredi à l'âge de 79 ans. C'est clair que le Québec en entier va se rappeler de lui. On fait une courte pause à l'émission On en jase et par la suite, Pascal, on va parler avec Joanie Leroy-Audy, qui est propriétaire de la station-service et du dépanneur Beausoir Breckyville à Lévis. Elle se fait voler de l'essence comme pas à peu près. Mais là, elle a une petite histoire à nous raconter. Elle en a retrouvé un en allant faire l'épicerie. C'était cœur, hein? J'adore ce type d'anecdote-là. Pour vous sensibiliser, les gens, on le sait, les temps sont durs, les amis, mais les marges de profit sont très minces là,
vous
pour
volez les
des
vôtres,
détaillants.
Là. Exactement. Vous volez ceux qui vivent la même chose
que
vous.
Oui, vous ne volez pas Ultramar de ce monde ou Petro-Canada ou l'Arabie saoudite.
Ce qui ne serait pas mieux, on s'entend,
non.
Mais qui serait quand même plus contestable au niveau de vos revendications. Dans le sens, on pourrait dire, on comprend votre démarche, mais on ne l'appuie pas. Là, pas du tout.
Non, exactement. Donc, on parle avec Joanie immédiatement après cette courte pause à Boulevard 102, l'émission d'En jase. Émission d'En jase sur Boulevard 102.1 pour l'émission d'actualité. Je vous rappelle, le blvd.fm, c'est les meilleurs moments qui seront placés directement après l'émission. Parce qu'on vient d'en vivre un beau avec Jacques Doucet, 86 ans. Grand comparse de Roger Brulotte. C'est en ligne, Pascal, que tu me fais signe?
Non,
c'est ça, il y a un petit problème.
Des nouvelles de dernière heure.
Ah oui, vas-y donc.
Du moins, il y a une des deux identités des pilotes décédés qui vient d'être portée à mes oreilles. Là. Donc, le pilote décédé après la collision sur le tarmac de l'aéroport LaGuardia à New York. C'est pas mal l'accident dont on parle depuis le début de la journée. Il est originaire de Coteau-du-Lac, Antoine Forêt, 30 ans.
30 ans. Oui. Nos sympathies à la famille, on est avec vous. Courage, tout le monde qui est marqué par cette tragédie. Je vous invite à un événement Pascal, un nouvel événement qui va être très plaisant. Ça se déroule sur 3 jours, du 21 au 23 août 2026. C'est le gros rassemblement de vélos de montagne au Canada, le Red Bras du Nord Pro Mutuelle Assurance. À l'heure actuelle, on est en pré-vente à 20 % de rabais pour l'inscription aux courses du samedi 22 août. Se termine dans quelques jours. Il faut s'inscrire avant le 31 mars pour profiter du rabais. Il y a 5 distances disponibles qui varient entre 20 à 75 km. Donc, on a des défis à la hauteur de tous les niveaux. L'événement rassemble autant les cyclistes aguerris que les amateurs et les familles. Il est aussi possible de vivre l'événement entre collègues en participant au défi corporatif du vendredi 21 août, une boucle à roulettes 5 km. C'est vraiment cool pour les entreprises et les partenaires de travail qui veulent s'y lancer. L'événement présente aussi 2 soirées de spectacles gratuits, une ambiance festive pour toute la famille durant toute la fin de semaine. En tant qu'organisme à but non lucratif, les profits sont remis à des organismes de la région de Portneuf ayant pour objectif de promouvoir le sport amateur. Pour plus d'informations, c'est le www.redbrasdunord.com. Rendez-vous sur la page concours du blvd.fm et vous pourriez gagner votre inscription pour 4 personnes au défi corporatif du vendredi 21 août. Donc, allez dans la section concours, allez vous inscrire et un tirage sera fait ultérieurement. Super bel événement. Nouvel événement dans la région de Portneuf. Le Raid du Bras du Nord, c'est un superbe endroit pour faire du vélo de montagne. J'en ai fait à quelques occasions. Puis il y a la petite microbrasserie juste à côté.
Ah, oh, ça, c'est toujours le fun. Une activité sportive qui se termine par un petit 5 à 7.
Une petite microbrasserie. Toujours plaisant. Quelque chose de moins plaisant, Pascal, dans l'actualité, c'est nos commerçants locaux qui travaillent fort pour garder leur station-service, leurs dépanneurs en bon ordre, être au service des gens, et là, qui se font voler de l'essence à tour de bras en raison de la hausse des coûts à la pompe. Et pour en parler avec nous, on a Joannie Leroy-Audy, propriétaire de la station-service et du dépanneur Beaussoir à Bréquéville, à Lévis. Joannie, merci beaucoup pour ta participation à l'émission On en jase.
Bonjour, bien merci à vous pour l'invitation.
Ça fait plaisir. Joannie, les vols d'essence sont en augmentation depuis quelques semaines chez vous?
Bien, moi, j'ai été chanceuse, j'en ai eu qu'un seul.
Okay.
C'est malheureux quand même, mais qu'un seul depuis la hausse des prix.
Mais en parlant avec vos collègues, vous avez vu que c'était rendu une tendance. Là. C'est pas juste des événements anodins. Là.
Oui, non, malheureusement, ça arrive dans différentes régions.
Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour faire un vol? Parce que dans ma tête, un vol d'essence, t'es filmé, il y a manière de jouer dans les caméras, vous n'êtes pas si loin derrière la porte, il y a d'autres clients. Il me semble que c'est pas facile d'être subtil.
Non, en effet, mais il y en a qui croient qu'ils sont agiles en enlevant leur plaque d'immatriculation. Fait comme ça, on peut pas les identifier. Mais moi, heureusement, on est un beau petit village. Des fois, on est oublié de Lévis, mais ça a ses avantages. Ben, la communauté m'a aidé à retrouver notre malfaiteur. Fait que parce que quand on n'a pas de plaque d'immatriculation, ben en effet, on ne peut pas faire grand-chose. La reconnaissance faciale, on n'est pas rendu là encore. Puis mon commis, même s'il était très grand et joue au basket, il n'aurait pas eu le temps d'aller l'arrêter. Là. Puis en même temps, je ne veux pas qu'il risque sa vie de se blesser pour ça. Là.
Exactement. Et là, raconte-nous ton histoire invraisemblable. Parce que toi, tu as un vol d'essence avec une personne qui a enlevé sa plaque d'immatriculation. Là, tu t'en vas tout bonnement faire ton épicerie et tu te retrouves à te stationner à côté de la voiture du malfaiteur.
Oui, oui, c'est vraiment fou. Ça semble irréel, mais dans le fond, j'étais déjà... Il y a des citoyens qui m'avaient dit qu'ils avaient vu le véhicule fautif dans le village, au village à côté, donc qui est Saint-Jean-Chrysostome. Donc, 1, 2, 3 clients qui m'écrivent. Puis là, il y en a un qui me donne le nom d'une rue, à aller voir. J'ai vu le véhicule dans cette rue-là. Fait que je suis juste allée faire un tour. Bon, j'ai pas vu le véhicule. Puis là, ben en remontant, ben moi, je suis... Maman de jeunes enfants, on prépare notre épicerie pour la fin de semaine. Fait que j'arrête à l'épicerie, puis j'arrive à côté de ce véhicule-là, vraiment, vraiment par hasard, je vous le jure. Puis ce véhicule, c'est en 2010, donc on voit plus ça tant que ça sur les routes. Je le reconnais un peu. Là, j'attends qu'il sorte de sa voiture. Je le prends en photo, puis là, je remarque des choses qui corroboraient, comme on peut dire.
OK.
Et puis c'est ça, c'est grâce à l'aide des citoyens que j'ai pu le retrouver. Là, après ça, j'ai appelé la police, bien sûr. Là, je me suis fait chicaner par l'agent qui vient nous voir souvent, là, malheureusement, parce que j'ai pas fait les choses dans les règles de l'art. Mais
ça aurait été quoi, les règles de l'art?
Bien, il aurait fallu que je les appelle dès le départ, bien sûr, pour ouvrir le dossier, pour qu'ils regardent les caméras, mais tu sais, sans immatriculation, on peut pas aller plus loin, mais sûrement qu'eux auraient peut-être poussé l'enquête un petit peu plus.
OK.
Peut-être en reconnaissant l'individu, mais c'est sûr que moi, je pense qu'avec l'aide des citoyens, c'est encore mieux.
Oui, bien, c'est ça. Parce que là, ce qui est arrivé, c'est que quand tu as été victime du vol d'essence, tu as mis ça sur tes médias sociaux. Et là, c'est là que les citoyens se sont mis à jouer justement à l'inspecteur et à retrouver la personne.
Oui. Excellent. Oui, parce que je suis chanceuse. Et on a des clients qui ont un grand sentiment d'appartenance à notre commerce, que, tu sais, qui sont vraiment tristes de tout ça, outrés qu'il y ait des gens qui volent encore. Fait que, tu sais, j'ai vraiment eu un bel élan de solidarité de nos clients. Puis ça a été vu 67 000 fois, cette publication-là. Bon, c'est plate parce que c'est pas la meilleure des pubs, mais... Ça a vraiment fait le tour puis ça a porté fruit. C'est vraiment super.
Mais il y en a qui disent que c'est un peu regrettable parce que quand ça arrive, il y a très peu de possibilités, de moyens d'aller chercher la personne fautive puis de l'amener à payer son dû et tout ça. Il y en a qui vont avec l'exposition de ces clients-là qui n'ont pas payé. Fait que finalement, c'est pas des clients. C'est juste des gens qui volent. Mais... ça se peut-tu que ça ait encouragé dans la période actuelle où tout est beaucoup plus cher, certaines personnes à commettre des vols parce qu'il n'y a pas moyen de les attraper?
Oui, je pense que oui. Puis, tu sais, dans le temps de la COVID aussi, l'essence était chère aussi. Puis on en a eu à ce moment-là plusieurs. Moi, je pense que oui. Là, tu sais. Puis on le voit aussi sur notre achalandage. Les ventes sont moins là. Peut-être que les gens font plus attention, justement, font attention à leurs déplacements. Mais c'est sûr que ça a un impact.
Joannie, quand finalement la police arrive, arrête l'individu, est-ce que tu es à proximité?
Oui puis non. Okay. Dans le fond, la policière est venue me voir physiquement au dépanneur pour me dire l'individu va te payer vendredi à une heure précise. Puis finalement, l'individu m'a appelé pour régler son compte par virement. Fait que, tu sais, ça a été super. Moi, c'est ce que je voulais. Je voulais juste être payée de mes pertes. Je voulais pas porter plainte. Mais c'est ça, semble-t-il, j'ai pas d'informations confirmées, mais semble-t-il qu'il y avait peut-être d'autres choses derrière ouais. tout ça, derrière ce dossier-là.
Qu'est-ce que tu veux dire? Peut-être qu'il était connu des policiers?
Oui, peut-être, oui. Okay. Parce que encore là, j'ai eu des photos de citoyens qui m'envoyaient le véhicule. En tout cas,
c'est fou comment c'est rendu, là. On retourne au pays, tu sais, aux anciens pays d'en haut, là. Tout le monde connaît un peu ses voisins, si on veut. Puis c'est bizarre, ceux qui reviennent à la surface des réseaux sociaux, dans les contacts de tous et chacun, c'est souvent ceux qui empruntent à long terme quelque chose.
C'est ça. On est dans un petit village à Bréquiville, puis tout le monde se connaît là-bas.
Pourtant, c'est ça. Ça t'est bien, tant mieux pour moi.
Joannie, dis-moi donc, on parle beaucoup de la hausse du prix de l'essence, mais vous, ça hausse pas nécessairement vos marges de profit. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'un vol peut être très difficile pour vous.
Oui, absolument. Parce que, justement, c'est ce que je voulais dénoncer aussi sur la hausse du prix de l'essence, c'est qu'on est opérateur. Nous, on est les petites stations-service derrière la grosse pétrolière. Ce n'est pas nous qui déterminons le prix de l'essence. On a des commissions, puis justement, quand il y a des pertes, des vols comme ça, ben c'est une grosse perte. Là. Pour moi, c'est la journée jeudi dernier. Ça a été une journée où est-ce que ça a été très, très peu profitable pour tout le travail qu'il y a derrière une station de service, l'essence, la gestion, la comptabilité, tout ça. Non, c'est ça, c'est pas avantageux pour nous.
Joannie Leroy-Audi, propriétaire de la station-service et du dépanneur Beauceoir à Bréquiville, Lévis. Ben oui, on va venir voir, on invite les citoyens à aller vous voir. Puis chapeau pour avoir retrouvé justement ce voleur d'essence-là et continuer votre excellent travail justement pour bien nous servir. Puis c'était important, je trouvais, de mentionner à la population que c'est pas vous les gros vilains qui ont augmenté le prix de l'essence, là.
Non, exactement. Puis on est là pour vous aider avec les prépaiements. On sait que c'est tannant. C'est pour nous aussi, c'est pas l'idéal, les prépaiements à l'extérieur ou à l'intérieur. Mais on veut que les gens rentrent dans nos commerces. T'sais, le dépanneur, c'est notre commerce. Donc, c'est vraiment comme pour prendre des précautions qu'on fait ça, mais c'est tannant pour nous aussi. Alors, merci pour la tribune.
Ça fait plaisir. Salut, Joannie. Merci beaucoup
Bonne
pour ton
journée.
Dynamisme. Salut, Joannie. Joannie Leroy-Audi, qui est propriétaire d'une station-service dans le secteur de Bréquiville. Histoire invraisemblable où elle a retrouvé le voleur à l'épicerie.
Ouais. Elle dit, moi, je suis allée à l'épicerie, puis vraiment, c'était pas prévu, je tombe à côté de lui.
C'est ça.
Combien de personnes seraient pas tombées par hasard à côté de lui?
Exactement. Donc, on est très heureux qu'elle l'ait retrouvé. Pascal, c'est l'enfer au Centre Bell samedi. Cole Caulfield. Monsieur Samedi Soir. On écoute.
Pelec, bon jeu de la part de Caulfield. Suzuki à la rondelle. Suzuki la passe, Petit. Et le but! Caulfield!
Félix Séguin dit trois fois le nom Caulfield parce qu'il a fait un tour du chapeau. Trois buts pour Cole Caulfield. Il est rendu à 43. On en jase avec Alex Laramé dans quelques instants à l'émission On en jase sur Boulevard 101. Est-ce qu'il va se rendre à 50? Est-ce que le Canadien va faire les séries? Est-ce que le Canadien est relancé avec cette victoire de 7-3 dépend des Islanders et de Patrick Roy? On parle de tout cela dans quelques instants à l'émission On en jase. Es-tu prête pour les séries, Pascal Saint-Veille?
Ben, oui! Good. Tellement hâte, mais moi, je vous pointe du doigt. Vous avez tellement bitché Cole Caulfield, puis maintenant, c'est votre demi-dieu.
Cole est un des meilleurs marqueurs de la Ligue nationale.
Juste confiance. Passez chez Laval Volkswagen dès aujourd'hui et trouvez le modèle qui vous fera aimer chaque trajet.
Équipez-vous pour l'aventure au Salon plein air chasse-pêche et camping présenté par Sport Chief avec le Salon du bateau de Québec. Le plus grand événement de plein air de la région revient au Centre de foire Expo-Cité ce jeudi jusqu'à dimanche pour une fin de semaine débordante d'activités. Vous y trouverez les dernières nouveautés en matière de chasse, de pêche, de bateau, de camping et plus encore. Pendant que vous y êtes, assistez à une conférence passionnante ou tentez de capturer votre première truite dans le bassin. Le Salon plein air chasse-pêche et camping de Québec ce jeudi jusqu'à dimanche au Centre de foire Expo-Cité. Billets et informations au Salon plein air Québec.ca.
Des amiantages, agrandissement d'usines, réfection, trottoirs, soutènement de béton, démolition. Pour vos projets commerciaux et industriels, la meilleure idée que vous pouvez avoir, c'est de faire confiance à Construction Finition, entrepreneur général et spécialisé. ConstructionFinition.com.
Jusqu'au 31 mars, embarquez pour l'élégance à prix de rêve avec le rendez-vous Air France. C'est le moment de prendre rendez-vous avec Paris à partir de 895 $ ou Athènes à partir de 995 $ aller-retour taxes incluses au départ de l'aéroport international Jean Lesage de Québec. Vous pouvez savourer une coupe de champagne dans toutes les classes, y compris en cabine économie. S'envoler en toute élégance. Air France. Voyagez du 12 juin au 6 octobre 2026. Voir conditions sur airfrance.ca.
La nostalgie frappe la Belle et la Bœuf. Si t'ennuies du burger nucléaire, du Goldorak ou de la poutine syndicale, c'est ta chance. Nos plats et cocktails classiques des années 2010 font un retour pour tout le mois de mars. On vous attend au La Belle et la Bœuf, place Sainte-Foy.
Le Patron Lapin est de retour. Achetez un chocolat de Pâques et courez la chance de gagner un de nos trois prix d'une valeur totale de 5 000 $. Chaque lapin vendu soutient les activités du Patro. Croquez pour le Patro et gagnez gros. Détails sur patrolapin.com.
Non, c'est pas bruyant. Ben non, tes chums vont pas te juger. Puis on s'en fout du look. C'est pour dormir, anyway. Puis c'est bien moins dérangeant que tes ronflements.
Pour retrouver un bon sommeil et pour retrouver votre énergie, clinique du sommeil Lessard.com.
Ici Nathalie Clark, porte-parole pour Miville Climatisation Chauffage. Profitez du confort d'une thermopompe murale ou centrale de marque Mouvert, classée numéro 1 par Protégez-vous, grâce à Miville Climatisation Chauffage. En tant qu'agent autorisé, Miville vous offre une installation professionnelle rapide et garantie. Économisez sur vos factures d'énergie et profitez de subventions pouvant réduire vos coûts d'achat. Subventions admissibles, renseignez-vous chez Miville.ca. Mouvert et Miville Climatisation Chauffage, le duo gagnant pour votre maison.
Belle salle de bain, plancher neuf, un petit coup de peinture avant le printemps. Profitez du froid pour rénover au chaud. Pas fou? Chez Matériaux Audet Timber Mart, on a tout pour vos projets de construction et de rénovation. Matériauxaudet.ca.
Le samedi 28 mars à 14h, ne manque pas le défilé de la Saint-Patrick, un événement gratuit et unique. Fanfare, animation et groupe de danse sur place. Départ sur l'avenue Cartier jusqu'au Château Frontenac. Le défilé de la Saint-Patrick, une collaboration de la Ville de Québec, du Château Laurier et de La Souche.
Vous entendez ce silence? C'est le futur qui arrive et il se conduit. Voici le Polestar 4, VUS coupé 100% électrique au design des plus audacieux. En location à partir de 359 $ aux deux semaines, à un taux de 0,99%, 0 $ de comptant initial. Disponible pour livraison immédiate, votre prochain véhicule vous attend déjà. Polestar 4, le VUS coupé de demain, dès aujourd'hui. Polestar Ville de Québec, votre destination 100% électrique.
On en jase. Le show que tu commences au bureau, que tu poursuis à la commande à l'auto, puis que tu finis jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.
Il est présentement 13h46, l'émission On en jase sera à sa fin. On va faire des manchettes du sport avec Alexis Laramé, notre journaliste au 99.5 Montréal. Ne manquez pas, évidemment, le retour de Gravel avec Denis Véraud et Audrey de la grande visite en studio. 16h30, le maire Bruno Marchand. Bruno Marchand qui est dans de beaux draps là, avec toute la communication entraînant les travaux du tramway. Conférence de presse demain matin, 9h30. Ouais. Le maire s'adresse aux médias aussi en scrum cet après-midi à 13h30. Bref, pour quelque chose qui était censé être bien géré, là. T'sais, on avait nommé deux personnes à la communication, là, Jean-Luc Lavoie et Raymond Poirier. Ouf! Ça part de façon très difficile.
Merci pour la passe sur la palette, parce qu'effectivement, c'est complexe. Et le RTC se défend que ce ne soit pas complexe.
Oui, c'est ça.
T'es encore, le soleil était sur le terrain ce matin pour aller voir les usagers du réseau de transport de la capitale. Puis on dit, ben, il n'y a pas vraiment d'événements à signaler. Ça semble assez positif pour le premier week-end où on a revu les parcours. Hein. Il y en a qui ont changé, il y en a qui ont été supprimés, il y en a qui ont été déplacés. C'est un réseau de transition en ce moment, comme on connaît le RTC. Mais il y a confusion. Puis la confusion, Jeff, si je me permets, semble être un peu amenuisée dans les commentaires du RTC. Et c'est peut-être aussi pour ça que Bruno Marchand va faire un point de presse. En passant, on vous rappelle qu'il sera dans le retour cet après-midi avec la gang de Gravel dans le retour.
Exactement. Et nous, on aura Mathias Turcotte demain à l'émission parce qu'il va y aller à la conférence de 9h30. Oui. Il va aller prendre les commentaires. Il y aura sûrement réaction de l'opposition aussi par la suite. Donc, il va venir nous faire un dossier complet entre 12h30 et 13h.
Peut-être vous rappeler qu'en raison des travaux, les autobus ne peuvent pas circuler sur les boulevards Laurier, René Lévesque. Il y a des voies réservées qui ont été transférées vers le boulevard Hochelaga et la Grande Allée. Et ça, c'est dû aux nouveaux travaux que l'on a mis en place pour le tramway. Tramway qui, je ne pense pas, mérite de plus de présentations parce qu'on n'en a pas d'autres présentations à faire sur le tramway.
Exactement.
C'est toujours un projet qui est en branle. La nouvelle d'aujourd'hui, c'est l'accident d'avion d'Air Canada à LaGuardia du côté de New York. Hier soir, en fait, le pilote décédé après la collision sur le tarmac de l'aéroport est originaire de Coteau-du-Lac. C'est Antoine Forêt, âgé de 30 ans seulement. Donc, je vous rappelle, accident qui a fait deux morts, un pilote et un copilote. On a aussi 41 personnes à l'hôpital. Un avion d'Air Canada qui est en provenance de Montréal, qui est arrivé et qui est entré en collision avec un camion de pompiers. Est-ce qu'on aurait pu l'éviter? C'est la question que j'ai posée ce matin à Charles-Éric Lamarche, qui est expert en aviation.
Non, c'est extrêmement difficile de réagir à ce moment-là. C'est un avion qui est en train de terminer sa course à l'atterrissage. On est en freinage, c'est extrêmement difficile. On est en ligne droite, c'est un avion qui est très pesant, malgré que ce soit un jet régional, c'est très pesant. Vous avez un véhicule qui vous coupe la route. On a de la misère à réagir en voiture. Imaginez lorsque vous avez un véhicule.
Alors, ça semble tellement être vrai. Impossible là, d'avoir oui. évité la collision. C'est absolument tragique. Les images font mal. On a aussi maintenant quelques bribes d'informations quant aux radios qui étaient présentes, aux communications. Et du côté de l'avion, de la tour de contrôle, on a essayé de prendre contact avec le camion de pompiers. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Et même qu'il y a certaines personnes qui ont avoué avoir cafouillé, hein. Mais on est en enquête en ce moment, donc on va devoir attendre pour en tirer des conclusions, ça c'est certain. Mais des contrôleurs aériens qui disent qu'ils ont tout tenté, malheureusement. La tragédie est arrivée. Au niveau de la politique, eh bien, Maïté Blanchette-Vézina se joindrait au Parti conservateur du Québec et on l'annoncerait demain. La nouvelle serait officialisée après quelques heures où la rumeur court, mais tu sais, rumeur étant une affirmation maintenant. L'ex-ministre Kakis, qui était devenue élue indépendante, va se joindre au Parti conservateur du Québec, qui a nul autre qu'Éric Duhaime à la tête de ce parti. Repensons Lévis, perd son chef, c'est Serge Bonin. Rappelez-vous, candidat à la mairie, a été défait à l'élection municipale du côté de la Rive-Sud. Il va quitter la principale opposition lévisienne. Il veut devenir candidat où? Au Parti québécois dans Chute de la Chaudière. Et je vais terminer avec Donald Trump, qui lui a affirmé, en prenant le micro un peu plus tôt aujourd'hui, qu'il avait le plaisir d'annoncer que les États-Unis d'Amérique et l'Iran ont eu, ces deux derniers jours, des discussions très fructueuses et constructives en vue d'un règlement complet et définitif des hostilités au Moyen-Orient. Compte tenu la teneur, le ton, les échanges approfondis, détaillés, constructifs, qui vont aussi se poursuivre tout au long de la semaine, on serait peut-être à la fin de ce conflit-là, Jean-François, mais permets-moi de suivre ça pour toi.
Ah oui, permets-moi d'en douter.
Suzuki à la rondelle! Suzuki la passe, mais c'est... Caulfield!
On se demandait s'il allait atteindre le plateau des 40. C'est fait. Maintenant, il est à 43. Cole Caulfield. Il reste 14 matchs à la saison, faut qu'il en marque 7. Alex Laramin, est-ce que Cole Caulfield va être le premier marqueur de 50 buts pour le Canadien depuis l'année 1992, je vais de mémoire de Stéphane Richer?
Ben écoute, Jeff, moi j'ai envie de te dire oui. Je vais te dire aujourd'hui, oh, là, si j'avais réalisé, je te dirais oui.
J'adore.
Pour plusieurs raisons. Petite correction, il reste 13 matchs officiellement à la saison
pardonne-moi.
Du Canadien. Il manque 7 buts au Canadien.
C'est vrai, là, c'est Cole a raté un match. J'avais vu qu'il avait joué 78.
Exact.
C'était ça, mon erreur.
Exact. Exactement. Mais j'ai regardé dans sa saison, puis j'ai tout divisé en tranches de 13 matchs, justement, pour voir comment il se débrouillait. Écoute, dans les 13 derniers matchs du Canadien, il est à 11 buts. Pratiquement un but par match.
C'est exceptionnel.
Dans les 13 autres matchs avant, 12 buts en 13 matchs. Donc, en ce moment, il est complètement en feu, en fait. Depuis le 1er janvier, depuis 2026, c'est le meilleur marqueur dans la Ligue nationale avec 24 buts. Le deuxième, c'est Kucherov à 22. Puis depuis qu'on est revenu de la pause olympique, ben c'est le premier aussi. C'est lui qui a le plus de buts. Il est à une triple égalité avec 11 buts. Donc, si on se fie à la tendance, si on veut, c'est qu'il ne va pas ralentir. Là. Depuis le début de l'année, il est chaud, il marque des buts. Donc, 7 buts en 13 matchs, selon moi, c'est réalisable. Cole Caulfield va atteindre le 50 buts cette année.
Vous l'aurez entendu sur les ondes de Boulevard 101, l'émission On en jase. Alex Laramin, notre chroniqueur sportif, journaliste au 99.5 Montréal, prédit une saison de 50 buts de Cole Caulfield. Ce serait complètement fou. Deux autres gros duels cette semaine pour le Canadien. La Caroline est à Montréal mardi. Les Blue Jackets de Columbus jeudi qui sont en pleine course aux séries avec Montréal. Faut pas en échapper, mon Alex, dans une course aussi serrée.
Ben, tu sais, on en parlait un peu la semaine passée. Là, on est rendu à cette étape-là de l'année. Tous les matchs sont super importants. Mais particulièrement ceux pour la course en série des clubs qu'on est directement en course. Je veux pas dire que Caroline, c'est moins important, là, mais eux sont déjà assurés de leur place en série. Mais contre Columbus, on peut pas l'échapper. On affronte Columbus d'ailleurs deux fois d'ici la fin de la saison. Donc, ça va être des matchs super importants. Donc, moi, je verrais comme peut-être quelque chose de naturel de peut-être l'échapper contre la Caroline puis de se reprendre en force. Parce que c'est sûr que les joueurs du Canadien, cette semaine, ils regardent l'affrontement contre Columbus puis ils se disent 6 matchs-là qu'on ne peut pas échapper. Donc, peut-être ça va être plus difficile de se motiver demain, mais jeudi, ça va être le match de la semaine.
En effet, le Great Hate, Alex Ovechkin a encore fait parler de lui hier.
Good luck, Strome. And Ovechkin fires! He scores! Alex Ovechkin on the power play. 1,000 goals combined, regular season and playoff.
Millième but combiné en saison régulière et en série. Évidemment, le seul autre dans l'histoire à l'avoir fait, c'est Wayne Gretzky. Alex Ovechkin va pouvoir se retirer en grand à la fin de cette saison-ci.
Ben ouais, c'est un peu ça la question que tout le monde se pose, hein, parce qu'il y avait eu des rumeurs l'été passé comme quoi ça allait être sa dernière saison. Est-ce qu'il va se retirer? Selon moi, t'atteins le plateau des 1000 buts, là, peu importe si tu réussis à battre le record ultime de Gretzky. Là, je pense qu'il était à 16 ou à 15 buts là, d'atteindre le record ultime de Gretzky. Selon moi, il a déjà gagné sa coupe. On voit la tangente que prend les Capitals. On ne s'aligne pas pour être capable de faire une autre percée en série dans les prochaines années. Moi, si j'étais lui avec les 1000 buts, je me retirais cette année puis on s'entend. Oui. Son numéro va être retiré. Il va aller au Temple de la Renommée. Tous les honneurs qu'il peut avoir à la suite de sa carrière, il va les avoir et ce sera bien mérité.
Exactement. Petite anecdote rapide personnelle. Quand tu vas au Temple de la Renommée de hockey, tu regardes le trophée Maurice Richard, tu vois pratiquement que du Alex Ovechkin. C'est assez impressionnant. On termine en 20 secondes avec le plus gros contrat de l'histoire pour un receveur de passe. C'est Jackson Smith, Njigba avec les Seahawks de Seattle, l'ancien d'Ohio State. 4 ans, 168,6 millions avec 120 millions garantis. Je vais avoir l'air fou un peu de dire que c'est mérité, mais c'est vrai, les Seahawks viennent de gagner le Super Bowl.
Ben, je pense qu'il y a tout de son côté. Là, je veux dire, il y a eu les meilleures statistiques cette année. Même sur le terrain, quand on le regarde, il fait des attrapés spectaculaires. Au niveau de ses tracés, il est précis. Puis en plus, il a gagné le Super Bowl. Donc, ça va de soi qu'il soit payé comme le meilleur receveur de la Ligue, comme tu l'as dit, amplement mérité.
C'est clair. Alex Laramie, on se reparle vendredi après cette grosse semaine du CH. On regardera combien de buts Cole Caulfield est rendu.
On va s'approcher de 50, je te dis.
Salut, Alex. Alex Laramie, notre chroniqueur sportif et journaliste au 99.5 Montréal. C'est déjà tout pour nous. Le retour de Gravel suit à l'instant même. Manquez pas l'entrevue avec le maire Bruno Marchand à 16h30 avec Denis Véro et Audrey. Pascal, nous, on se dit à demain.
Sans faute.
À demain, tout le monde. Restez à l'écoute de Boulevard 101, le retour de Gravel.